Merci, frère Neville. Bien. Bonjour, mes amis. Il faut que je regarde de temps en temps pour savoir si c'est le matin ou le soir. Bien, je suis heureux d'être ici ce matin. Il fait chaud et j'ai certainement été reçu avec beaucoup de chaleur. Nous n'avons plus de printemps. Nous avons l'été et l'hiver ici, n'est-ce pas? Tout paraît être sans dessus-dessous de toute manière. Eh bien, ce qui m'a retardé, j'ai nettoyé la maison. Et j'étais raide et endolori ce matin. Et je me suis levé avec beaucoup de temps devant moi, mais je ne me rendais pas compte qu'une femme avait tant de travail à faire. Il faut préparer 3 enfants, puis partir pour l'école du dimanche. Oh, tant de choses à faire, plus que je ne pensais qu'il y en avait. Et j'ai pensé, eh bien maintenant, hier soir, je travaillais, et je venais du champ d'évangélisation, et dans simplement là-bas, oh, comme c'est difficile de trouver quelqu'un pour travailler. J'ai offert 35 $ par semaine pour garder le bébé et personne n'a même voulu le faire. J'ai pris un petit morceau de papier ici il n'y a pas longtemps. Évidemment, ceci n'a rien à voir avec ceci. Il paraît qu'il y avait quelqu'un ici, un genre de politicien ici dans le Kentucky. Il est dit qu'il avait été 2 fois dans l'armée, il avait été blessé 3 fois comme un héros, il avait vécu dans le voisinage comme un bon citoyen, il avait fait beaucoup de choses. Il avait été au secours de 2 enfants, l'un dans une crique et l'autre ailleurs. J'ai oublié tout ce qu'il avait fait. Et finalement, il pensa bien qu'il faut garder le voisinage en bon état. Il allait se présenter pour une fonction publique. Et quand il l'a fait, il n'a obtenu que 5 votes sur 100 000 personnes. Il demanda à l'église s'il pouvait avoir une carabine à canon tronçonné pour l'aider à sortir du voisinage, car il dit, c'est dangereux même de vivre ici alentour. Il n'avait même pas assez d'amis pour l'aider à sortir de la ville. Voilà la gratitude américaine. Pourtant, n'est-ce pas, c'est juste. En Amérique, plus vous en faites, plus on s'attend à ce que vous en fassiez. C'est juste. On en attend encore toujours plus de vous. Bien. Eh bien, ce matin, je veux faire des compliments sur la propreté et l'arrangement de l'église. En venant, j'ai vu qu'il y avait une porte pour faciliter la circulation. C'est vraiment bien. Et je complimente celui des administrateurs qui a fait faire cela. C'était vraiment très bien. C'est un travail bien fait. Je crois que c'est frère Paul, si je ne me trompe, qui l'a fait. C'est du beau travail. Maintenant, il est un peu tard, mais vous savez comment sont les chrétiens. Voyez, nous n'avons jamais de temps. N'est-ce pas, frère Slaughter, frère Dickman? Ses frères et d'autres disent, non, notre éditeur. C'est simplement tout comme nous le prenons. Mais nous avons eu des rencontres merveilleuses dans le Sud. Mais je n'ai pu parler que depuis quelques jours. J'ai prêché 4 mois durant et j'avais même plus assez de voix pour murmurer. Il fallait que je m'exprime avec des gestes à ma femme. Vous savez, pour dire ce que je voulais, c'est une sorte de... Puis après cela, en venant ici avec ce temps trompeur que nous avons, froid un jour, chaud le lendemain, j'ai attrapé une véritable grippe comme autrefois. Et je me suis levé il y a 2 jours et je suis reparti. Et ainsi, nous remercions notre Seigneur pour toute sa bonté et sa miséricorde envers nous et comme il a été bon. Nous avons eu des réunions merveilleuses là-bas et le Seigneur nous a bénis extrêmement et abondamment. Et la nuit dernière, vers minuit, frère Woods m'a appelé à sa maison et frère Arkenbright au téléphone. Il voulait que je commence en Suisse, mais c'est trop de déplacements pour un vieil homme. Ainsi, maintenant, notre prochain rassemblement commence le 11 du mois prochain au Cattle Tabernacle à Indianapolis. Au Cattle Tabernacle à Indianapolis du 11 au 15. Puis de là jusqu'à Minneapolis, Minneapolis d'Indianapolis à Minneapolis pour les hommes d'affaires chrétiens. Maintenant, frère Neville m'a appelé et je voulais montrer, exprimer combien je l'appréciais, lui et le trio Neville, qui sont venus chanter pour moi à cet ensevelissement que j'avais avant hier. Et j'avais demandé à frère Neville s'il n'avait pas de chanteur. La famille Liddick, monsieur Liddick est parti dans la gloire. Et certainement, si son fils, je ne le vois pas ici, j'ai su après que c'était son beau-fils. Sachant que son père était en train de mourir et n'était pas sauvé, il est venu me chercher en courant, et son père accepta le Seigneur avant de mourir. Ainsi, la plus grande chose qu'ait pu faire ce garçon fut d'aller chercher quelqu'un qui vienne prier pour son père avant qu'il ne s'en aille. Et le trio Neville y est allé et a très bien chanté pour eux. Et donc, frère Neville m'a demandé de prêcher ce matin et ce soir également. Et remarquez donc l'écriture qui déclare « Demandez abondamment pour que vous... » Frère Neville suit certainement très bien les écritures à ce sujet, extrêmement bien. Et je vais donc faire de mon mieux. Maintenant, j'ai dit ce matin, comme c'est la fête des mères, que nous voulons parler aux petits-enfants. J'ai pensé que ce matin était bien le moment pour les petits-enfants. Maintenant, je pense que le jour des mères, bien, nous ne connaissons rien sur terre de plus doux qu'une vraie mère. Que le Seigneur bénisse sa bonne âme, une vraie, vraie mère. Mais aujourd'hui, nous avons tant d'imitations qui sont appelées mères, mais qui ne le sont pas. Elles ne sont que des femmes qui ont des enfants, pas des mères. Une mère à l'ancienne mode est celle qui prend soin de sa famille et qui ne se précipite pas dans ses bars et dans ses danses, y passe la nuit à fumer, à boire et revient ensuite. Celle-là ne mérite pas le nom sacré de mère. Elle n'est qu'une femme, c'est tout, qui élève un enfant, mais pas une mère. Parce que mère a une autre signification. Maintenant, je pense, si vous... Maintenant, pour la fête des mères, je désire m'exprimer vraiment bien. J'ai moi-même une mère âgée aux cheveux blancs qui est assise ici. Je pense qu'un jour, c'est bien, mais chaque jour devrait être le jour des mères, pas seulement un jour par an. Et la raison pour laquelle ces choses, la fête des mères, se passent, et je vois que nous ne sommes que quelques-uns et nous nous connaissons tous. Nous sommes des gens de la même maison et c'est la raison pour laquelle nous allons parler de cette manière. Je pense qu'une mère doit être respectée de la même manière tous les jours. C'est vrai, une vraie mère. Et ce jour qu'on appelle la fête des mères n'est rien d'autre dans le monde qu'une grande histoire commerciale simplement pour soutirer de l'argent aux gens. Et c'est une honte vis-à-vis d'une mère, une fête des mères une fois dans l'année. Eh bien, nous n'irons pas la voir, mais nous lui enverrons quelques fleurs et ce sera très bien. Une mère, ce n'est pas cela, oh non, une vraie mère est la femme qui vous a élevé, et vous l'aimez, vous la voyez, vous lui parlez tout le temps, vous lui exprimez votre amour tous les jours, pas seulement un jour dans l'année. Mais avant de commencer mon petit drame, je voulais simplement exprimer ceci et le rappeler à certains d'entre vous. Et beaucoup d'entre vous sont morts, beaucoup d'entre eux sont partis depuis que ceci a été fait. C'était en 1933. Avez-vous lu dans le journal, il y a quelques jours, cette femme qui tua cet homme, le jeta dans l'allée, prit sa voiture, passa sur lui à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit complètement écrasé sur la route? Et ils dirent, les hommes de loi et les autres lui dirent, « Votre conscience ne vous condamne-t-elle pas ?» Elle dit, « Dieu et moi commençons à être fatigués de voir la manière dont les femmes sont traitées. » Oh my ! Oui, elle est une idole, c'est vrai. Commençons à être fatigués. Jusqu'où cette nation peut-elle descendre? Combien de temps pouvons-nous encore continuer sans qu'il survienne un jugement divin? Je me le demande. Dieu et moi, si Dieu était coupable de toutes les absurdités qu'on lui impute, il ne serait pas Dieu, c'est tout. Dieu et moi, oh Dieu n'a rien à voir avec cela. Je me demande, quand elle sera là-bas dans les tourments, ce qu'elle en pensera alors. Oh, Amérique, maintenant rappelle-toi, si vous n'avez pas inscrit ceci, faites-le. Voici ma prédiction, voyez-vous. En 1933, quand nous avions des services là-bas, où il y avait les vieux, je crois que l'église de Christ y est maintenant, avant c'était le vieux bâtiment de la loge maçonnique, c'est juste là-bas, vers le ville tout droit, c'est là que vivait Charlie Kern, c'était un orphelinat, là-bas, avenue Metz, en 1933. J'avais juste une Ford 1933 et je l'ai consacrée ce matin-là au Seigneur. Et avant de quitter la maison, j'ai eu une vision. Je l'ai par écrit, un vieux papier jauni qui attend toujours dans ma Bible. J'ai vu arriver la fin des temps. Et vous, combien d'entre vous se rappellent à quoi ressemblait une voiture en 1933? Oh, elle avait à peu près cette forme-là et plus haute à l'arrière. Elle avait une encoche pour suspendre la roue de secours. J'ai vu en vision qu'avant le retour du Seigneur, ces voitures ressembleraient à un œuf. Combien d'entre vous se rappelle-t-il de cette prédiction? Y a-t-il encore quelqu'un ici qui s'en souvienne? Frère Stewart est parti, je crois. C'était en 1933 que nous avions les services là-bas. Je crois que presque tous sont partis maintenant depuis lors. Et j'ai prédit que le Dieu numéro un de l'Amérique serait la femme. Et c'est bien vrai. Tout suit la mode d'Hollywood. J'ai ici enregistré, d'après un document du FBI, des choses dont vous auriez du mal à vous remettre si vous les entendiez. Tous les scandales au sujet de ces stars. Je ne sais pas s'il y en a une seule qui ne se prostitue pas. Et le FBI en a parlé récemment. Je l'ai d'après leurs propres documents. Elles découchent toutes ces stars de cinéma. C'est prouvé. Ils y sont allés et les ont surprises. Elles vivent là avec des hommes pour 25-50 dollars la nuit. Un homme, tous là-bas, à Hollywood et partout, ils ont leur maison privée, et des hommes là-bas qu'ils envoient vers ces gens. Et c'est ce que nous regardons, la télévision est là au dehors, sur les écrans et toutes ces choses. Et nous laissons nos enfants les appeler des idoles. Puis nous appellerions cela des mères. Elles sont bien loin d'être des mères. Tout cela n'est que la corruption, c'est certain. Et pourtant, ce sont elles qui font la loi. Eh bien, laissez-les faire. Voyez les vêtements qu'elle porte. Voyez la femme américaine s'habiller exactement comme elle en tout. C'est certain. Et le Dieu de l'Amérique est une femme. Non pas Jéhovah. Ils se sont détournés de lui. Non, pas pour la mère maintenant. Mais maintenant, laissons cela de côté. C'est une chose sacrée dont nous allons parler. Mais je veux dire la femme. Et rappelez-vous, je prédis qu'avant le grand anéantissement total, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a montré ceci. Mais je crois que quelque chose arrivera entre maintenant ou à ce moment-là, en 77. Cela peut arriver juste maintenant, mais entre maintenant et 77, je prédis soit une grande destruction ou un anéantissement total de la terre entière entre maintenant et 77. Je l'ai prédit en 1933. Je prédis que les femmes auront de moins en moins de moralité, et que la nation continuera à déchoir, et que l'on continuera à s'accrocher à cette idée de mère ou de semblant de mère, jusqu'à ce qu'une femme devienne une idole. Et après un certain temps, l'Amérique sera dirigée par une femme. Notez-le, et voyez si ce n'est pas vrai. Une femme prendra la place d'un président ou quelque chose comme cela, la place de quelque chose de grand, d'une très grande puissance en Amérique. Et quand je dis cela respectueusement, mesdames, mais quand une femme sort de la cuisine, elle n'est plus à sa place, c'est vrai. C'est là son apanage. Hors de cela, elle n'a pas sa place. Et cela, c'est dur pour elle. Mais je ne dis que la vérité, ce que dit la Bible. Autrefois, l'homme était le chef de la maison, mais c'était au temps de la Bible. Il ne l'est plus, il est un pantin. Ou bien, c'est lui qui garde les enfants ou quelque chose comme cela. Et maintenant, non, elles veulent s'occuper d'un chien, pratiquer la contraception, garder un petit chien dans les bras tout le temps, ainsi elles peuvent sortir le soir. Je ne parle pas des mères, que Dieu les bénisse. Ce qui maintient encore en partie le pays, c'est une vraie mère, sainte, convertie à Dieu, et bonne, c'est juste. Mais quelle honte de voir jusqu'à quel point nos femmes sont tombées. J'ai là un article de journal que j'ai découpé après cette dernière guerre mondiale, la numéro 2. Il est dit, où en est donc la moralité des Américaines pour qu'après 6 mois d'absence outre-mer, 4 soldats sur 5 divorcent avec leurs femmes et qu'elles en épousent un autre? Elles n'ont même pas pu attendre leur retour, alors qu'ils étaient là-bas, mourant sur le champ de bataille. La personne qui fait cela n'est pas digne d'être appelée mère de ce nom sacré. Non, elle n'en est pas digne. Ainsi, on a toujours dit que je haïssais les femmes, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'une femme est quelque chose de merveilleux, et surtout les mères. Mais elles doivent être à leur place, et ne pas prendre la place de l'homme, et ne pas prendre la place de Dieu. Et ce matin, j'ai entendu d'une église de la sainteté dire qu'une femme dirige les étoiles du ciel, et ce genre de choses. Je peux imaginer les catholiques dire cela de la Vierge Marie, etc., comme cela. Ils adorent ces femmes qui sont mortes, Sainte Cécile et tout cela. Ce qui est la plus grande forme de spiritisme. Ce n'est rien d'autre que cela. Tout ce qui a contact avec les morts est du spiritisme. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. C'est juste. Pas d'autre saint rien hors du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul qui puisse intervenir entre Dieu et les hommes. Mais quand je vois toutes ces églises, où du haut de la chair, on retire tout ce qu'il y a de sacré de Jésus-Christ pour le donner à une mère, on enlève tout ce qui est sacré, puis ils commencent ainsi, et vous voyez où ils en sont. C'est ainsi. Mais il y a encore de vraies mères. Dieu soit loué. C'est comme lorsque vous voyez un hypocrite. Il y a un vrai chrétien qui vit vraiment cette vie là-bas. Quand vous avez le pour, vous avez le contre. C'est absolument vrai. Et maintenant, c'est de cette sorte de mère et de cette sorte d'enfant dont nous voulons parler dans la Bible. Maintenant, je me demande combien de petits garçons et de petites filles nous avons ici ce matin. Si vous avez entendu la communication de Frère Neuville hier, combien de petits garçons et de petites filles voudraient venir ici et s'asseoir dans la rangée de devant pendant que je vous parle? Voulez-vous venir ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 sièges ici. Et encore un ici, ce qui fait 6. Et des petits sièges par ici. Voulez-vous venir devant, certains d'entre vous, petits enfants, vous pouvez venir sans leur maman. Et voulez-vous venir ici? Vous y êtes très sincèrement invités. Quelqu'un dit, ils sont là-bas dans la salle d'école du dimanche, note de l'éditeur. Ah, là-bas dans la salle d'école du dimanche, bien, parfait. Nous allons attendre quelques minutes et parler, ils seront arrivés dans quelques instants. Et nous allons nous rassembler, tous ces petits yeux noirs, marrons ou bleus, ici. Et je vais parler à chacun d'eux. Maintenant, combien aime le Seigneur? Dites Amen.
Amen.
Maintenant, je veux parler aux mères et aux enfants, et cela leur est adressé. Ce soir, le Seigneur voulant, je voudrais parler du premier miracle que Jésus a accompli et comment ce fut fait, et avec quelle puissance, et que fit-il quand il l'accomplit? Combien savent quel fut le premier miracle qu'il accomplit? Répondez tous ensemble. Il changea l'eau en vin.
Il changea l'eau en vin.
C'est vrai, c'est le premier miracle qu'il a fait. Maintenant, si le Seigneur le veut, pendant que j'étudiais ce matin, ça m'est juste venu à l'esprit. Je vois que nous avons nos bons amis, monsieur et madame Yecker là-bas, je crois, ce matin. J'ai juste remarqué quand j'ai contourné le pilier par là. L'autre jour, j'ai dû passer un examen. Je dois passer souvent des examens pour mes voyages outre-mer. Et quand je suis sorti, j'ai justement vu monsieur et madame Yecker assis là dans le bureau là-bas. Le docteur Sheen à Louisville est un bon frère chrétien, je peux vous le dire. J'ai vraiment rencontré là un homme véritable, un vrai chrétien qui croit en Dieu et met là sa confiance. Et savez-vous que je peux vous dire que j'ai rencontré plus de docteurs qui croient dans la guérison divine que de prédicateurs? C'est vrai. Vous leur parlez, je dis, certainement, et quand je suis prêt à partir, il prit ma main, il dit, frère Branham, vous faites plus pour l'humanité que je n'ai jamais pu faire. Il dit, c'est vrai. Il dit, vous pouvez aider des gens que je ne peux même pas même toucher, m'en occuper. Il dit, c'est vrai. Je dis, mais pourtant, vous pouvez les recoudre, ou remettre un os, ou faire des choses comme cela. Mais c'est Dieu qui guérit. Il dit, c'est la vérité. Amen. Oh, j'aime voir des gens à l'esprit large, et qui ont du bon sens. Je pense que la chirurgie, un médecin, un chiropracte, un ostéopathe, la guérison divine, tout cela, si quelque chose là-dedans peut aider quelqu'un, je suis pour. Mais prenez un docteur, il condamnera un prédicateur, et le prédicateur condamne le docteur, et un ostéopathe condamne un chirurgien, et le chirurgien condamne le médecin. Vous pouvez imaginer ceci? Il y a un motif égoïste quelque part, c'est vrai. Parce que chacun a démontré qu'il pouvait aider quelqu'un. C'est absolument vrai. Maintenant, ce que je pense de cette chose, c'est que si nos motifs sont justes et que nos cœurs sont droits vis-à-vis des gens, nous devons travailler tous ensemble pour aider notre prochain pour que la vie soit plus facile. Et alors, vos mobiles ne sont pas égoïstes et vous rendez gloire à Dieu qui donne tout gratuitement. Amen. Oui, monsieur. Oh, nous ne devrions jamais avoir aucun égoïsme nulle part. Ce serait parfait. Si la chiropractie peut aider celui-ci, l'ostéopathie aide celui-là et quelque chose d'autre aidera quelqu'un d'autre, prions pour tout cela. Amen. Que Dieu veuille simplement aider son cher peuple à être en bonne santé et heureux. Car nous n'avons pas très longtemps à rester ici, seulement quelque temps, et nous sommes sur le chemin pour aller ailleurs. Aussi, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre la vie un peu plus facile pour que vous ayez de meilleurs moments pendant que vous êtes ici. Amen. Maintenant, sur cette pensée, courbons nos têtes avant d'ouvrir la Bible et parlons à notre merveilleux Sauveur. Notre bon Père Céleste, nous venons si humblement ce matin en ta présence et nous te remercions par-dessus toutes choses qui aient jamais été sur terre ou qui ne le seront jamais pour le Seigneur Jésus-Christ. Car il fut celui qui a réuni Dieu et les hommes ensemble et il nous a réconciliés, nous de pauvres étrangers indignes et sans Dieu, loin de Dieu. Par choix de nous-mêmes, nous avons fait notre choix, nous nous sommes éloignés de lui, et il a été si bon de venir. Et alors que nous déplaisions à Dieu, alors que nous étions des pécheurs loin de Dieu, il nous réconcilia avec le Père en répandant son sang. Combien nous te remercions pour lui, et aujourd'hui il se tient comme médiateur le seul entre Dieu et l'homme qui puisse faire monter une prière dans la présence de Dieu, grâce à son propre sang qu'il répandit de la terre vers la gloire. Il vint sur cette terre dans une étable, il naquit dans une crèche. Il quitta la terre par la peine capitale. La terre ne voulait pas de lui. On l'a rejeté. Loin d'un être pareil, il n'eut même pas un endroit pour naître ni un endroit pour mourir. Et il fut pendu entre le ciel et la terre. Le ciel ne pouvait pas le recevoir et la terre n'en voulait pas. Et pourtant, il mourut pour nous sauver du péché, pour guérir nos maladies, pour nous donner la joie et des moments heureux pendant que nous sommes ici sur la terre. Quel Seigneur, et comme nous te remercions pour lui. Ô Dieu, que toute l'adoration de notre cœur soit répandue pour lui seul. Que tout le respect, toute l'adoration, tout le respect, tout ce qui vient de nos lèvres et de nos cœurs, soit répandu sur lui qui est digne de tout. Lui qui s'assit sur le trône un jour avec le livre dans ses mains, aucun homme dans le ciel ou sur la terre n'était digne ou capable de regarder même dans le livre ou d'en briser les sceaux qui le tenaient fermé. Et cet agneau qui avait été mis à mort dès la fondation du monde, il vint, il le prit de ses mains, il ouvrit les sceaux et libéra la parole pour le peuple. Et Père, nous te prions aujourd'hui que son Saint-Esprit libère nos cœurs de toutes les ténèbres, libère nos langues de tout ce qui est mauvais, pardonne tous nos péchés et enlève toute obscurité et entre dans nos cœurs ce matin. Et surtout ces petits-enfants, ô Dieu, bénis-les, eux qui sont assis ici ce matin avec leur charmante mère. Ô Dieu, combien je te remercie pour cette maternité, pour ces véritables femmes. Au milieu de toute cette obscurité, cette idolâtrie, cette saleté et la corruption du monde, nous avons pourtant des mères vraies et sincères. Et nous te prions, Seigneur, de les bénir. Tu les vois assis ici ce matin, beaucoup de frères et sœurs, portant des roses blanches et des œillets blancs et des fleurs, signifiant que leur chère et sainte mère a traversé pour aller au-delà du voile de l'autre côté, non pas morte, mais vivante à jamais. Un jour, ils descendront aussi vers la rivière, et là, ils pourront la voir à nouveau de l'autre côté. Beaucoup portent des roses rouges, leur mère est toujours ici. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de nous bénir tous ensemble, alors que nous étudions ta parole, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que le Seigneur vous bénisse, et nous commençons tout de suite dans la parole ce matin. Maintenant d'abord, avant de commencer ce petit drame, j'ai pensé pour les mères et les petits-enfants, et ils vont probablement m'entendre car cet appareil a une bonne voix. Et maintenant je vais vous donner un petit drame, parce que j'ai remarqué que dans mes prédications, les petits drames aident énormément. N'est-ce pas votre avis? Les petits-enfants comprennent mieux. Je vois deux petits garçons assis qui me regardent maintenant les yeux brillants. Ils seront des hommes demain, s'il y a un lendemain. Et maintenant, avant d'avoir notre présentation, un petit drame ou quoi que ce soit qui arrive dans l'Église, il faut que ce soit conforme à la Bible. Amen. Il faut que la Bible le confirme. D'abord, prenons tous Matthieu chapitre 16 et verset 25. Et nous allons lire ces versets. D'abord, pendant que nous lisons, que nous nous préparons, peut-être que pendant ce temps-là, les petits-enfants seront arrivés. Maintenant, Matthieu 16, 25. Nous lisons ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Maintenant, voici une parole très importante. Lisons cela tous ensemble. Que dites-vous? Tout le monde et les petits-enfants sont rassemblés maintenant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous savez, mes enfants, je sais que les adultes vont se réjouir de ceci comme les enfants, mais cette parole est si importante, et certaines paroles sont si importantes que Dieu les a mises dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ceci est si important qu'il l'a mis six fois dans l'évangile. Six fois, ces paroles sortir des propres lèvres de Jésus. Maintenant, dans Marc, nous allons prendre là, au 8e chapitre de Marc, et nous commencerons au verset 34, et je vais en lire un peu là. Et je voudrais que vous remarquiez ici à nouveau que Jésus le dit avec une petite suite. Et rappelez-vous, il l'a mis six fois dans l'évangile, de façon à ce que ce soit certain. Deux, c'est un témoin, mais il l'a mis trois fois cela, voyez-vous ? De façon à ce que vous vous en souveniez avec certitude. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, un des traducteurs a mis, « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. » Maintenant, le verset 35. Écoutez, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Maintenant, prenons ce verset 35 et citons-le ensemble maintenant. Bien, maintenant disons-le ensemble. Nous allons prendre Marc 8, 16. Maintenant disons-le ensemble. Marc 8, 16. Excusez-moi. Marc 8, 16, 35. Non, je me trompe encore. Marc 8, excusez-moi. Marc, Saint-Marc, chapitre 8, verset 35. Maintenant, essayons. Saint-Marc, chapitre 8, verset 35. Maintenant, nous l'avons. Lisons-le. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi est de la bonne nouvelle. La sauvera. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons commencer tout de suite avec notre petite histoire. Et quand les enfants entrent, ils prennent leur place. Les surveillants s'occupent de les faire taire. Voyez, si vous pouvez les faire entrer pour que nous puissions leur raconter notre histoire. Nous allons ce matin prendre appui sur un petit drame. Mais très souvent ici, il y a quelques jours, frère et sœur Woods étaient avec moi, je crois là-bas, à la dernière réunion. Et j'ai parlé au repas des hommes d'affaires chrétiens. Et j'ai fait un petit théâtre, un petit drame sur Zachée, là-haut dans le sycomore. Et quand Jésus passa, et comment il avait une boîte à ordures, vous savez, j'ai un petit peu dramatisé cela. Et il grimpa dans un arbre pour voir Jésus. Et l'homme d'affaires, assis là-haut dans l'arbre, vous savez, qui se cachait de Jésus. Et Jésus ne savait pas où il était, vous savez. Et puis il dit, « Oh, on m'a dit que cet homme sait certaines choses, et peut prédire les choses, et sait où les poissons ont un... » Je ne le crois pas. Et Jésus arriva près de l'arbre, et il dit, « Ça va, il ne peut pas me voir, je suis assis là-bas dans un arbre. » Jésus s'arrêta, il leva la tête, et il dit, « Zachée, descends !» Non seulement il savait qu'il était là-haut, mais il savait qui il était. Ainsi je pense qu'une petite présentation, un petit drame aide quelquefois les adultes, les vieux aussi bien que les jeunes. Ainsi, maintenant, à la fin de la réunion, vous pourriez me demander, « Frère Branham, où trouvez-vous ces renseignements sur ces personnages et leurs noms ?» Pour certains, mon bon frère Bouffe Cliborne m'a aidé, et aussi Joseph, le grand historien, puis des livres sur l'histoire que j'ai lus au sujet de cet événement, etc. Et c'est ainsi que j'obtiens mes renseignements pour ce que je vais donner comme un petit drame ce matin. Je vois que nos petits-enfants descendent maintenant. C'est pour entendre cette histoire que nous allons raconter ce matin. Maintenant, vous, garçons et filles, si vous pouvez, tous ceux qui veulent, venez juste là-devant. Nous avons 5 ou 6 places. Si vous voulez venir jusqu'ici, nous serons contents de vous avoir. Vous arrivez juste à temps pour le petit drame, maintenant. Et maintenant, c'est ainsi que je peux obtenir ces renseignements. Comment j'arrive à les trouver? Quelqu'un peut arriver là et dire, « Eh bien, je n'ai jamais lu ce passage de la Bible. » Mais si vous ne l'avez pas lu, l'histoire l'a trouvée, vous voyez? Ainsi, c'est toute la même histoire. C'est simplement donné sous forme d'un petit drame. Et ainsi, c'est ça, c'est ça. C'est ton petit frère? Oh, il te ressemble vraiment. Et c'est un bon petit garçon, ça se voit. C'est bien. Maintenant, voulez-vous venir jusqu'ici et vous asseoir? Voici 2 petites filles, ou 3 petites filles plutôt. Oh, comme elles sont gentilles et chiques. Maintenant, je veux cette petite histoire ce matin, et pour les petits garçons et les petites filles. Mademoiselle Collins, je crois que c'est vous là-bas, et l'autre petite sœur, vous voulez venir jusqu'ici et vous asseoir, mes chéris. Oui, je crois qu'il y a une place juste ici, et si cette dame veut bien retirer son sac, et puis juste ici, il y a encore 2 places ici. Je veux tous ces petits garçons et toutes ces petites filles ici devant pour que je puisse leur parler. Ici, nous avons quelques chaises ici. Oui, monsieur. Quelqu'un va nous aider juste ici pour que nous n'en manquions pas, mais juste pour ces petits garçons et ces petites filles. Oh, ma, n'est-ce pas que c'est bien? Maintenant, cela, je crois que vous allez en avoir encore quelques-uns, Fermeville. J'en vois encore 2 qui arrivent. Eh bien, maintenant, c'est tout à fait bien. Combien de mères sont ici? Levez la main. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, c'est juste bien et agréable. Maintenant, si vous, les petites filles au fond, vous voulez venir ici, venez. Si vous êtes assez grande pour être loin de vos mamans. Et maman veut bien vous amener ici. Dites-lui de venir. C'est pour maman aussi. Bien. Maintenant. Je vous dis, mes enfants, que nous venons de lire un verset. Voudriez-vous tous le citer avec moi? Voulez-vous tous le citer avec moi? Maintenant, on le trouve dans Matthieu, chapitre 16, verset 25. Nous allons parler là-dessus. Maintenant, ces petits, tous les petits garçons et toutes les petites filles, ce matin, citent ceci avec moi maintenant. Dites, Saint-Matthieu.
Saint-Matthieu.
Chapitre 16.
Chapitre 16.
Verset 25.
Verset 25.
Alors maintenant, vous citez avec moi, car celui qui sauvera sa vie,
car celui qui sauvera sa vie,
la perdra.
La perdra.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera.
La sauvera, oui, répétons-le.
Celui
qui perdra sa vie, à cause de moi, la sauvera. C'est merveilleux. Maintenant, mes enfants, savez-vous quoi? Il y a un tas de choses dans le monde qui ont une valeur réelle. Et une de ces choses est, et vous l'avez avec vous aujourd'hui, l'âme qui est à l'intérieur de ce corps. Et cela est la chose la plus précieuse dans le monde pour vous. N'est-ce pas juste, mère? Les mères disent Amen, notre éditeur. La chose la plus précieuse que vous ayez, c'est votre âme. Et maintenant, si vous gardez votre âme, alors vous allez la perdre. Et si vous perdez votre âme, alors vous allez la sauver. Si vous perdez votre âme pour Jésus, voyez? En d'autres mots, si vous croyez en Jésus, vous devenez son disciple. Et alors, si vous donnez votre vie à Jésus quand vous êtes jeune comme ceci, et puis si vous allez, il va la sauver pour la vie éternelle. Mais si vous voulez la garder, vous allez la perdre. Oui, vous la perdrez. Si vous voulez agir comme les autres garçons et filles autour de vous, et sortir et faire comme ils font, alors vous allez la perdre. Oui, vous la perdrez vraiment. Mais si vous voulez donner votre vie à Jésus, alors vous la sauverez pour l'éternité et pour toujours. Maintenant, rappelez-vous de cela. Maintenant que c'est la chose la plus précieuse dans le monde entier, c'est votre petite âme. Et si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la donnez à Jésus, vous la sauverez. Pouvez-vous dire cela avec moi? Dites.
Si je la garde,
je la perdrai.
Et
si je la donne à Jésus,
je la sauverai.
C'est cela. Maintenant, vous avez compris, n'est-ce pas? Toutes les mères qui pensent que ceci est bien, dites Amen.
Amen.
Oh, comme ceci est bien, comme c'est bon. Maintenant, voyez-vous, Il y a une chose que vous pouvez faire. Maintenant, vous continuez. S'ils veulent agir comme ceci et que leur monde désire, si les garçons et les filles veulent sortir là et faire des choses et raconter des histoires et dire de mauvaises choses et tricher et voler et faire le mal et copier à l'école, des choses comme ça, qu'ils continuent. Ils perdent. Ils la perdent. Mais s'ils la donnent à Jésus, ils ne feront pas ces choses et alors ils la sauvent. C'est ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Bien, nous allons commencer notre petite histoire. Maintenant, voici notre toile de fond. Maintenant, vous vous en souvenez. Maintenant, commençons notre petite histoire. Maintenant, pour les personnes plus âgées et pour les papas et les mamans, vous écoutez aussi maintenant. Surtout les pères et les mères. Bien, juste, et nous allons commencer. Aimez-vous les petites histoires? Les aimez-vous? Oh, je les aime beaucoup. Surtout maintenant. Vous lisez beaucoup d'histoires qui ne sont pas vraies, mais cette histoire est vraie. C'est l'absolue vérité. Chacun des mots est vrai. C'est dans la Bible de Dieu. Ainsi, il faut que ce soit la vérité. Vous voyez? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Bien. Vous savez, il dit, je suis si fatigué. Je suis fatigué à en mourir. Eh bien, dit-elle, pourquoi ne montes-tu pas te coucher? Tu t'allonges sur le divan là-haut, elle se couche. Il dit, mais oh, je suis trop fatigué. Il dit, oh ma chérie, si tu avais vu ce que j'ai vu aujourd'hui, oh je ne veux même pas dîner. Oh, ce que j'ai vu aujourd'hui était terrible. Elle dit, eh bien, qu'est-ce que tu as donc vu? Il dit, je ne peux pas te le dire devant les enfants. Oh, c'est trop terrible. Oh, c'était affreux. Bien. Je vais monter, m'allonger juste un petit moment, et puis après dîner, quand nous aurons mis tous les enfants au lit, je te dirai ce qui est arrivé aujourd'hui. Bon, dit-elle. Il monta et il s'allongea. Oh, si fatigué! Oh my! Vous savez comment est votre papa quand il est fatigué, vraiment fatigué? Et après un moment, la petite fille aux yeux brillants commença à courir partout dans la maison et à parler un peu plus fort. Et elle dit, ne fais pas ça, tu vas réveiller papa. Il est tellement fatigué qu'il voudrait mourir. Il ne veut plus continuer à vivre. Et si papa est fatigué à ce point-là, eh bien nous devons le laisser dormir un petit peu. Ne le réveille pas. Et la petite Myriam va s'asseoir dans un coin et se tient bien sage. Et un moment après, quand le souper est prêt, elle se glisse jusqu'en haut et elle l'appelle. Amram, il dit, oui, Jochebed chérie. Je descends. Et ils descendirent donc, vous savez, et ils prirent un bon souper. Ainsi, après qu'ils aient eu à dîner et que le petit garçon, la petite fille aient mangé tout leur souper, alors la mère débarrassa la table, elle les mit au lit. Puis elle entre dans la pièce, seule avec son mari, et il s'assoit. Elle dit, « Eh bien maintenant, qu'est-ce que tu as donc vu aujourd'hui, Amram, qui t'a mis dans un tel état ce soir que tu ne voulais même plus continuer à vivre ?»« Oh, ma chérie, dit-il, je ne peux absolument pas le comprendre. Il dit, j'ai vu. En fait, nous le voyons tous les jours, mais aujourd'hui c'était spécial. Il dit, oh, j'ai vu la chose la plus abominable que j'ai jamais vue. Il dit, nos pauvres gars, certains n'ont pas plus de 12 ans, qui tiraient ce gros chariot avec des cordes autour de leur cou comme ça. Et ces pauvres gamins avaient tiré jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. En remontant cette grande pente avec ces grosses pierres, ils ne pouvaient pas faire un pas de plus. Et au bout d'un moment, le chariot s'est mis à grincer et n'avançait plus qu'à peine. Puis il s'est arrêté. Sur le chemin, un homme arriva. Oh, c'était un fou! Il se mit à hurler. Pourquoi arrêtez-vous ce chariot? Quelle horreur! Avec ses grands fouets pressés, il se mit à leur frapper sur le dos et le sang coulait sur leur dos et coulait comme ça. Et ces pauvres gamins s'accrochaient à cette corde et criaient. Il dit, oh, Jochebed, que pouvons-nous faire? Il dit, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a bénis. Nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi devrions-nous être des esclaves de ces choses ici? Oh, c'est terrible, les cris de ces enfants. Oh, et je prie, Jochebed. Et c'est comme si Dieu ne m'entendait même pas. Je prie, et on dirait que l'oreille qu'il tend vers moi est sourde. Il ne m'entend pas du tout. Il semble ne plus s'en soucier. Maintenant, dit-elle, écoute, Amram, cela ne te ressemble pas. Tu es un vrai père. Es-tu cela ne te ressemble pas, parce que tu es toujours en train de nous encourager, de nous dire d'avoir foi en Dieu. Oh, mes chéris, quand je prie tellement et que Dieu ne m'entend toujours pas, et que tout paraît aller toujours plus mal, plus je prie, pire ça devient. Mais mes enfants, Dieu entend-il les prières?
Amen.
Il entend les prières. Dieu répond-il aux prières?
Amen.
Oui. Répond-il tout de suite? Pas toujours, n'est-ce pas? Non. Quelquefois, il nous fait attendre. N'est-ce pas vrai?
Amen.
Mais Dieu répond aux prières, n'est-ce pas? Et simplement parce que tout va de travers, ce n'est pas un signe que nous devons nous arrêter de prier. Nous continuons simplement à prier de toute manière, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez bien répondu. Dieu répond aux prières. Disons-le tous ensemble.
Dieu répond aux prières.
Oui, quelles que soient les circonstances, il répond de toute manière, c'est juste. Eh bien, allons-nous encore prier? Oui. Et papa avait une chambre secrète, là en haut dans le grenier, où il allait prier. Aussi ce soir-là, il y monta. Il s'agenouilla et dit, maintenant il dit, Jochebed, maintenant va te coucher toi les enfants, parce que ne me dérangez pas ce soir, je vais prier toute la nuit peut-être. Ainsi il tombe à genoux, et il prie, et je le vois lever ses mains et dire, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rappelle-toi de la promesse de ton peuple. Ici, nous sommes dans le fin fond de l'Égypte et nous sommes en esclavage. Et, oh, nos cruels surveillants arrivent à nous faire faire des choses en nous frappant. On arrache les vêtements de ces pauvres gens, on les frappe avec une cravache. Et nous sommes ton peuple, oh Dieu. Tu entendras certainement la prière. Tu répondras certainement à la prière. Et je prie, et tu sembles ne pas répondre. Mais Dieu, je crois que tu es Dieu et que finalement tu répondras à la prière. Et il continua à prier comme ça presque toute la nuit. Et le matin suivant, vers 3 ou 4 heures, il descend les escaliers et il regarde et il voit sa jolie petite femme, la petite Jochebed. Elle était là dans le lit, elle dormait. Et le petit Aaron et la petite Myriam avaient été mis au lit et étaient tellement fatigués et ils dormaient très bien. Elle dit, il est très tard et tu viens seulement? Oui, j'ai prié toute la nuit. Et Josh, t'as pris mot enregistré sur la bande originale anglaise, notre éditeur. Mouillé de pleurs parce qu'il pleurait pour son peuple. Elle dit, écoute maintenant, Amram, tu ne devrais pas le prendre si mal. Maintenant, dit-il, écoute ma chérie, c'est bien, mais maintenant regarde, nous avons 2 enfants élevés ici, et ce fardeau est le mien. Si personne ne prie pour notre pauvre peuple, que va-t-il leur arriver? Que va-t-il arriver s'il n'y a pas quelqu'un qui l'ait sur le cœur? Il faut que quelqu'un prie. Eh bien, dit-elle, le fardeau n'est pas pour toi seul. Pourtant, c'est ce qui semble. Et de toute façon, je prierai de toute manière tout le temps. Et ce jour-là, il va au travail. Et tous les jours, il va et il revient. C'est toujours le même travail. Et son travail est dur. Il faut qu'il versait du mortier dans de grands moules. Et il devait se tenir là, près d'un grand fourneau. Quand on l'ouvrait, ça lui brûlait presque la peau, cette chaleur terrible. Il enfournait ses briques là-dedans pour les cuire, et il les en retirait pour construire de grandes routes, de grandes tours, des idoles et toutes sortes de choses. Et ce véritable chrétien là-bas travaillait ainsi pour l'ennemi. Mais c'était un esclave. Il était en captivité, il était obligé de le faire. Et tous les soirs, quand il rentrait à la maison, il priait. Il montait à nouveau les escaliers et priait, puis il redescendait. Rien n'allait mieux, ça continuait à aller plus mal. Un jour, alors qu'il était au travail, il entendit des rumeurs. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Quelqu'un murmurait à quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, avant la fin du jour, tout le pays entendait parler de ce qui allait arriver. Qu'était-ce? Un conseil allait se rassembler ce soir-là. Le vieux roi Pharaon, ce vieux méchant roi, allait rassembler son peuple pour un grand conseil là-bas. Aussi ce soir-là, il rentra chez lui complètement abattu. Il entre et sa femme dit, « Mon cher Amram, elle vient là au devant de lui à la porte, elle l'embrasse et elle dit, « Prends ton souper, il est bon et bien chaud. » Mais dit-elle, « Chérie, tu es si pâle, que t'arrive-t-il ? » Il dit, « Oh, Jochebed, si tu savais seulement ce qui arrive. Oh, c'est pire que jamais.
Quoi? Je ne peux pas le dire, les enfants sont là. Attends d'avoir dîné et je te le dirai. »
D'accord. Et le souper était donc prêt. Il soupait, elle prit les enfants et les mit au lit. Ils entrèrent donc, il dit, « Jochebed, il faut que je te dise quelque chose. » Il dit, « Une des choses les plus horribles va arriver. » Il dit, « Il va y avoir un autre conseil ce soir. » Et ils se rencontrent pour mettre encore un autre fardeau sur notre peuple. Ainsi, allons donc maintenant au palais du roi. Le roi Pharaon les rassemble tous là et dit, « Eh bien, vous tous les généraux, qu'est-ce qui vous arrive maintenant? C'est moi qui donne les ordres ici. Ce peuple augmente de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pouvons-nous pas arrêter ceci? Un jour, notre armée entrera ici et tous nos ennemis, qui sont de Goshen là-bas, ces Israélites, se joindront à cette armée et ils nous battront. Et notre grand système économique sera mis en pièces. Notre grand royaume sera détruit. Ils nous auront. Qu'est-ce qui vous arrive? Que quelqu'un parle. Ne savez-vous pas quoi répondre? » Oh, il était si bas et si vil. Tous les généraux tremblaient. L'un d'eux se leva et dit, « Longue vie au roi Pharaon. Eh bien, dis ce que tu vas faire. » Il dit, « Longue vie au roi, votre grandeur, sire, il dit, je désirerais que vous mettiez davantage de fardeaux sur le peuple. Veux-tu qu'on t'arrache les yeux? Vous avez déjà mis le lourd fardeau sur le peuple, et pourtant il s'accroît. Alors toi, si tu n'as pas d'autre idée, garde-la pour toi. » Oh, c'était un homme brutal. Au bout d'un moment, il y en a un qui se lève avec sur le visage un grand sourire, comme le diable. Et il dit, « Longue vie au roi Pharaon !» Il dit, « J'ai une idée. » Et il dit, « Eh bien, parle, ne reste pas planté ici comme ça. » Il dit, « Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. » Il dit, « Vous savez que ces gens s'accroissent très vite. » « Oui, c'est vrai, » dit-il. « Certains parmi ces gens ont jusqu'à 14 enfants, quelquefois. Quelquefois, ils en ont même 20. Et notre peuple en a à peine un. » Il dit, « Ils s'accroissent si vite qu'il couvre pratiquement tout le pays. » Vous voyez, Dieu agissait. Vous voyez, Dieu aveugle toujours le diable. Vous voyez, voyez-vous, il sait ce qu'il fait. Voyez-vous, et toutes ces femmes avaient beaucoup d'enfants. Eh bien, dit-il, longue vie au roi. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'une femme donnera naissance à un petit garçon, sortez dans le pays ici et prenez certaines femmes et ce ne sont pas des mères, voyez, les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, les femmes qui ne désirent pas d'enfants et ne les aiment pas, ces sorcières au long nez, voyez, plus le nez est long, mieux ça vaut. Des vilains doigts longs, des visages peints, et les voilà. Elles ne savent pas ce que c'est l'amour d'une mère. Ainsi donc, quand un bébé mâle naît, eh bien, quand il arrive, on prend ce petit garçon, on sort, et on lui fracasse le crâne contre le mur, et on le jette à sa mère comme ça dans la maison, ou on le jette dans un grand puits. Ou alors encore mieux, prenons-le, attachons-lui les mains et les pieds et jetez-le au crocodile pour les engraisser. Voilà la manière de s'en débarrasser. Ainsi, ils ne s'accroîtront pas beaucoup parce qu'il n'y aura plus d'hommes. Tuez tous les bébés mâles. Oh, dit Pharaon, c'est bien, voilà une bonne idée. Voyez-vous comment est le diable? Il est mauvais, n'est-ce pas? Il dit, voilà la chose à faire. Allez, vous prenez, maintenant, puisque c'est toi qui en as eu l'idée, je vais t'en nommer responsable. Maintenant, tu vas chercher toutes les vieilles femmes dont tu as entendu parler, celles qui n'ont jamais été mères et qui n'aiment pas les enfants. Elles sont vraiment, voyez, il faut une mère pour aimer un enfant. Vous vous souvenez combien votre mère vous aimait? Eh bien, vous voyez, la mère aime les petits bébés. Mais il fallait qu'il trouve quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui ne voulait pas d'enfant. Juste des vieilles femmes sordides. Et il dit, qu'elles soient comme des policiers. Et quand vous en aurez fait des policiers, donnez l'ordre qu'elles puissent aller dans toutes les maisons qu'elles voudront, prendre tous les bébés, leur écraser la tête contre le mur et les donner à manger aux crocodiles, tous les petits bébés. Oh, comme c'est cruel. Alors vous savez ce qu'ils ont dit? Très bien, ça c'est bon. Alors le jour suivant, quand Amram était au travail, il entendit dire que cette solution avait été trouvée. Et oh, il rentre chez lui, il dit, « Oh, Jochebed, oh, ma chérie, laisse-moi te le dire, laisse-moi te dire quelque chose. Sais-tu quel est cet ordre qui était donné? De tuer tous les petits enfants mâles. » Et il lui raconta. Il dit, « Oh, je ne peux vraiment pas supporter ça. » Il monta encore une fois pour prier,
Et cette nuit-là, il pria comme il n'avait jamais fait auparavant. Sommes-nous censés continuer à prier? Oh, continuez à prier. Est-ce juste? Continuez simplement à prier quoi qu'il arrive. Continuez à prier. Maintenant, la première chose qu'il fit, il pria toute la nuit. Oh Dieu, sois miséricordieux. Aide-nous, oh Dieu. Nous te prions de nous aider de quelque manière que ce soit. Et il redescendit au commencement du jour, jour après jour, et oh, que de lamentation dans tout le pays, tous les jours, on entendait des mères arpenter les rues en hurlant, on leur avait arraché leurs bébés des bras, ou de tout petits bébés, des garçons, ces vieilles sorcières entrant dans les maisons, les prenaient par les pieds, les tuaient en les frappant contre le mur, et les jetaient aux crocodiles, et la pauvre mère tombait à genoux et criait, « Oh, ne prenez pas mon bébé, ne prenez pas mon bébé !» Et oh, quel moment terrible elle vivait. Vous savez, comme une mère aime son petit bébé, comment elle le couche sur le ventre, vous vous souvenez comment votre mère vous prenait, et vous embrassait, et vous lavait, et disait comme vous étiez beau, et comment elle vous mettait au lit le soir, et oh, si vous étiez, s'il y avait une porte ouverte, un courant d'air, quelque chose comme ça, oh, comme elle courait vite pour fermer la porte, et recouvrir le petit bébé, et vous savez, elle vous aimait, voyez-vous, elle vous aimait. Oh, elle aimait cette pauvre petite chose que Dieu lui avait donnée. Elle était sans défense, avait besoin d'elle. Aussi, elle aimait ce petit bébé. Simplement, elle embrassait ses petits bébés, jouait avec eux, parce qu'elle était une vraie mère, voyez-vous. Mais ces vieilles femmes qui tuaient les bébés ne savaient pas ce que c'était que l'amour maternel. Ce n'était pas des mères. Tout ce à quoi elles pensaient, c'est de passer de bons moments. Elles n'avaient dans la tête que les choses du monde. Aussi, elles entraient, tuaient ces petits bébés. Vous êtes trop jeune pour le savoir. Mais ce sont des choses qui arrivent encore, c'est vrai. Maintenant, vous les adultes, vous savez de quoi je parle, c'est vrai. Il y a trop de tout cela. Oh, vous dites, je ne prendrai pas. Mais l'avortement, c'est la même chose, c'est vrai. Mais voyez-vous, elles ne savent pas ce que c'est que l'amour maternel. Maintenant, vous savez ce que je veux dire? Quand je dis de vraie mère, c'est vrai. Ce n'est pas différent. C'est le même diable. Ainsi donc, alors, et pensez seulement aux mille fois mille chaque année. C'est aussi mal qu'en Égypte. C'est pire aujourd'hui. Ainsi donc, alors elles n'avaient pas l'amour d'une mère. Aussi elles prenaient ses petits bébés et les tuaient. Oh, c'était de pire en pire. Et un jour, voici une autre nouvelle. Ils vont se réunir à nouveau. Pharaon réunit tout son conseil, tous ensemble, et il arriva et dit, « Eh bien, il continue à s'accroître. Qu'allons-nous faire maintenant ?» Ce même tas de boue, ce vieux au visage démon se leva et dit, « Longue vie au roi Pharaon, j'ai l'idée qu'il faut. Regarde, tu as les hommes qui travaillent. Tu veux qu'ils fassent un four de briques tant par jour. Exige qu'ils les fassent avec la paille. Tu as tué les petits-enfants et toutes ces choses, mais ils continuent à s'accroître. Ce que tu dois faire, c'est mettre aussi les femmes au travail. Si tu mets les femmes au travail, alors ils ne vont pas. Maintenant, ce n'est pas la place d'une femme. Non. Aussi, il dit, mais tu mets les femmes au travail, et tu les envoies là-bas, et tu leur fais faire aussi des briques. Et donc, elles seront si fatiguées quand elles rentreront, qu'elles ne pourront pas faire le dîner de leur mari. Elles ne pourront pas être une bonne mère, voyez. Et ainsi, si elles travaillent, continuent comme ça, elles ne pourront pas le faire. Mets donc au travail aussi. Ça, c'est très bien. Tu es vraiment un homme sage. Ainsi, il mit toutes les femmes au travail. Et voici ce pauvre vieil Amram qui rentre ce soir-là. Il dit, oh, Jochebed, je ne sais pas ce que nous allons faire. Maintenant, ils mettent toutes les femmes au travail. Je te dis, oh, je ne sais absolument pas quoi faire. Nous sommes exactement comme des esclaves et c'est de plus en plus mauvais pour nous. Je te prédis ceci. Si Dieu fait jamais quelque chose pour nous, ce sera après que nous soyons tous morts. Maintenant, Dieu n'attend pas comme ça, n'est-ce pas? Non. Dieu nous observe simplement quelquefois, n'est-ce pas? C'est vrai. Ainsi donc, cette nuit-là, il dit, je vais monter prier comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Maintenant, c'est la façon de prier, n'est-ce pas? Prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. S'accrocher vraiment. Voyez, si vous vous levez simplement et dites, Seigneur, bénis ceci, 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 Dieu ne prend pas vraiment intérêt à cela. Mais quand vous accrochez vraiment, quand vous, petits garçons et petites filles, vous vous accrochez vraiment. Faites-vous cela à l'école? Vous demandez à Dieu de vous aider à l'école? Quand vous allez à l'école et que vous n'avez pas de bonnes notes, est-ce que vous rentrez et que vous dites, « Oh Dieu, je veux que tu m'aides » Priez-vous? Combien de petits garçons et de petites filles prient-ils? Levez votre main. Oh, voilà qui est bien. Maintenant, c'est bon. Avez-vous un endroit secret où vous allez prier et où même papa et maman ne vous voient pas? Est-ce que vous priez comme cela? Vous ne priez pas comme cela? Ayez un petit coin où vous entrez pour prier et dites votre petite prière. Là, est-ce que vous la faites tous les soirs avant d'aller au lit? Et quand vous vous levez le matin alors? Oh, ça c'est bien. Combien de petits garçons et de petites filles lèvent la main à des enfants qui prient dans tout l'auditoire? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Bien, maintenant ceci est bon. Cela montre que vous avez une vraie mère et un vrai père qui vous enseignent à faire ces choses. Maintenant, quand vous avez réellement besoin de quelque chose, vous avez meilleur temps de prier sincèrement, n'est-ce pas? Donc, Abraham monte dans sa chambre. Oh, il ne voulait pas dîner. Il dit, c'est trop terrible. Oh là là. Oh, dit-elle, il faut que tu dînes, papa. Mais je ne peux pas, Jochebed. Je ne peux vraiment pas. Oh, dit-elle, mais tu maigris, tu es nerveux, tu as le visage pâle, tu vomis ta nourriture et tout ça. Oh, je ne sais pas quoi faire, mais dit-il, ma chérie, s'il n'y a pas quelqu'un qui prenne ce peuple à cœur, s'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour le peuple, qu'allons-nous faire? Nous allons de pire en pire. Certainement qu'il y a un moment où Dieu entendra. Oui, c'est vrai, Dieu entendra. Vous faites ce que vous avez à faire et vous vous tenez simplement là. Oh, cette fois, il monte, c'est différent. Quand il monte, cette fois-là, il s'agenouille, il lève les mains en l'air et il crie. Oh Dieu, je te parle maintenant. Amen, il s'y met vraiment. Oh Dieu, tu as des oreilles et tu peux entendre. Tu as des yeux et tu peux voir. Tu as de la mémoire. Tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Je viens plaider vers toi, oh Dieu. Regarde ici en bas. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est dans la détresse et il se meurt. Fais quelque chose pour nous, ô Dieu. Il faut que tu sois avec nous tout de suite. Il faut que tu sois avec nous ou nous allons périr. Tu dois être avec nous. Il le faut si nous voulons vivre. C'est ainsi que vous priez vraiment. Oh, comme il priait. Vous savez, quelquefois, quand les gens prient, ils se fatiguent. N'est-ce pas, vous les papas et les mamans? Oh, je me fatigue tellement. Frère Branham est quelquefois tellement fatigué que je suis sur le point de m'évanouir quand je prie longtemps. Je suis sur le point de m'évanouir. Je ne mange pas et tout cela pendant des jours. Et je prie et prêcher. J'en arrive à un point où je suis au bord de l'évanouissement. Quelquefois les gens en arrivent là. Ce n'est pas alors le moment d'abandonner. Continuez à prier. Dieu répondra. Oui, monsieur. Il gravit donc les vieilles marches grinçantes. Je vois Jochebed venir et dire, « Oh, Abraham, arrête, mon chéri, je crois. » Maintenant, Jochebed, regarde, tu es douce et belle. C'était une petite maman jolie et belle à voir. Et il continuait, il la cajolait comme cela, il dit, « Maintenant, maman, retourne mettre Aaron et la petite Myriam au lit, et je vais monter prier. Et maintenant, si tu m'entends pleurer, ne monte pas. » « Bien, mais Abraham, que vas-tu faire, mon chéri? Tu es presque mort. » Oui, mais j'ai le fardeau du peuple sur le cœur. Il faut que je fasse quelque chose pour cela. Il faut que je reste à genoux. Et ainsi, tout le peuple, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, là-bas où ils font les briques, j'étais là-bas et je n'arrêtais pas de dire, « Eh bien, mes enfants, Dieu va entendre !» Et un grand, gros homme s'avança, il mit les mains sur les hanches. « Quand entendra-t-il? Quand entendra-t-il » Voyez comment les gens deviennent même amers. Ils se montrent contre Dieu. Parce qu'il prie, il prie, il prie, et rien n'arrive. Et celui-là prie, et prie, et prie, et rien n'arrive. Et tous les prêtres disent, les jours des miracles sont passés. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'aller vers ces vieux surveillants qui adorent les idoles et des dieux païens, etc. Et que pouvons-nous faire? Mais lui, il a dit, mais je crois en Jéhovah. Amen! Je crois qu'il répond encore aux prières. Croyez-vous cela? Vous le croyez?
Amen.
Que tous ceux qui croient ça disent Amen.
Amen.
Ils répondent encore aux prières. Très bien. et son petit corps frêle a perdu du poids, il monte l'escalier grinçant, il va là, il s'agenouille, il dit, ô Jéhovah, où il pria comme il l'avait jamais fait auparavant, il dit, ô Jéhovah, regarde ici, tu es un vrai Dieu, nous croyons que tu as des oreilles, nous croyons que tu as des yeux, et tu connais toutes choses, et nous croyons que tu es le Dieu des Hébreux, et que nous sommes le peuple de la promesse, nous croyons que tu tiens ta parole, il dit. Regarde ces païens ici, comment ils se servent de notre travail à bon marché, et construisent de grandes routes, des idoles et tout cela. Ô toi, Jéhovah, tu resterais assis au ciel, et tu laisserais les païens avoir le pas sur toi? Je ne crois pas que tu ferais cela. Amen. Je ne crois toujours pas qu'il le ferait. Amen. Quand le diable arrive, Dieu est toujours Dieu, c'est vrai. Il ne permettra pas au diable de faire cela. Nous sommes dans les jours où la mode, les bêtises, les inepties ont une grande place. Pourtant, Dieu règne toujours et il est toujours Dieu, c'est juste. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un comme Amram, qui est le fardeau sur le cœur, qui se tiendra là et qui continuera à prier jusqu'à ce que le ciel soit grand ouvert, que Dieu descende et réponde aux prières. Amen. Maintenant, regarde ici, dit-il. Ô Dieu, laisseras-tu les païens se moquer ainsi de ton peuple? Des semaines, des mois, des années sont passées. Nous prions sans relâche. Les larmes baignent. Partie enregistrée sur la bande originale anglaise de l'éditeur. Ô Dieu, permettras-tu de telles choses? Je me demande aujourd'hui, quand il y a des centaines de bébés, jetés dans les rivières, dans les fosses d'aisance, à qui on ne permet pas de vivre, quand il y a tous ces avortements et toutes ces choses, ô Jéhovah, vas-tu permettre que tout cela continue? Aujourd'hui, quand on n'entend parler que de whisky, de bière, de vie nocturne et de tout cela, et quand de la chair, on est devenu si mou qu'on a peur de s'élever contre cela, ô Jéhovah, vas-tu permettre que toutes ces extravagances continuent? Un jour, il répondra, oh, sa colère est terrible quand elle arrive. Oui, monsieur. Des femmes qui vont tuer leur bébé. Un cendrier. On lui laisse tomber les cendres et tout cela. Et les gens mènent leurs petits-enfants dans les bars, des petits garçons, des petites filles assis là, des enfants de 6 ou 8 ans, buvant des choses comme cela. Et le pays rendant ça légal, disant que c'est bien. Oh, ma. Vous pensez que Jéhovah ne voit pas cela? Quand ils vont jusqu'à se moquer des gens qui marchent vraiment avec Dieu? Toutes ces choses qui se passent, ils se moquent. Tenez bon simplement. Jéhovah répondra. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai. Nous continuons un peu plus loin. Nous le trouvons là-haut en train de prier. Il est si fatigué qu'il se couche. Il prie jusqu'à ce qu'il tombe simplement sur le sol. Il ne peut plus continuer. Et il fait un petit somme. Il se réveille. Et qu'arrive-t-il? Regardez ici. D'où vient cette lumière? Oh, regardez debout là dans le coin. Il y avait un ange. Il avait son épée pendant à son côté. Oh, il regarde à nouveau. Il se frotte les yeux. Il se remet à genoux. Il dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Et il dit, Amram, je suis l'ange de Dieu. Je suis envoyé du ciel pour te dire que Dieu a entendu tes prières. Et je suis venu te dire qu'il va envoyer un libérateur. Il se souvient de toutes ses promesses. Je vois l'ange maintenant, regardez-le. Il tire son épée, il la pointe vers le nord. Et Amram regarde. Il dit, juste où je pointe cette épée, il y a la terre promise. Et j'ai promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, vos pères, que ton peuple héritera de cette terre. Et j'ai entendu les gémissements du peuple. J'ai entendu les pleurs des enfants, et je descends. Et je veux que tu saches que tu vas tenir un grand rôle dans ceci, Amram, parce que tu as été fidèle dans la prière. Tu as été fidèle dans ta maison. Et vers cette époque, l'année prochaine, Jochebed, ta gentille petite femme, tiendra un petit garçon sur ses genoux, et ce petit garçon sera un libérateur. Oh, gloire! Il dit, oh oui, oui, oh oui, oui, oh, il est si beau. Il regarda et l'ange commença à s'élever. C'était exactement comme si tout le ciel s'était ouvert. Et il sortit de la pièce. Il attendit un petit peu, il dit, « Oh, je ne suis pas hors de moi. » Il descendit à toute vitesse, il dit, « Jochebed, viens vite. » Elle dit, « Oui, qu'est-ce qui arrive, mon chéri ?» Il dit, « Tiens-toi debout, lève-toi. » Le clair de lune brillait à travers les fenêtres. Elle était très belle. Et il dit, « Je viens juste de voir un ange de Dieu. » Et il m'a dit toutes ces choses. « Oh, et comment était-il ?» dit la mère. « Comment était-il ?» Il dit, « Oh, il était beau. » Il avait une robe brillante. Ses yeux brillaient. Il avait une épée à la main. Il la dirigeait vers le nord. C'est là-bas, tu sais, que se trouve la terre promise, hors d'Égypte. Là-bas, dans cette direction, la Palestine. Il dit, il la dirigeait vers le nord et il dit que nous allions avoir un bébé à cette époque, l'année prochaine, et que ce petit bébé s'élèvera, sera un conquérant et délivrera son peuple. Oh, alléluia, Jochebed. Et il vit qu'elle était tranquille. Son visage, ses yeux brillaient. Elle regardait de ses grands yeux. Jochebed, qu'y a-t-il? Oh, Amram, non, nous aurons un garçon? Oui. Oh, tu, ce n'est pas possible. Tu sais ce qui va arriver? Oh, si je n'avais jamais eu cette vision, tu le sais, Pharaon tue tous les petits bébés. Oui, mais tu sais, si Dieu nous donne ce bébé, Dieu prendra soin de ce bébé. Amen. Dieu a promis, Dieu en prendra soin. Donc, le jour suivant, il va au travail. Et tous les autres marquent Amram. Au lieu d'arriver, vous savez, courbé, las, il se tient droit et dit, « Passe-moi encore des briques, allez, marchons !» Mais qu'est-ce qu'il y a? Gloire à Dieu, Dieu va répondre aux prières. Oh non, vous savez, ça vous fait du bien quand vous obtenez une réponse. Ne savez-vous pas ça, papas et mamans, quand Dieu donne une réponse? Vous n'avez pas besoin de voir une vision. Vous savez juste que la réponse est là, c'est tout. C'est tout, juste savoir que la réponse est là. Maintenant, écoutez bien maintenant. Regardez, voyez ce qui est arrivé. Maintenant, vous savez, au bout d'un moment, ils dirent, « Eh bien, Abraham, qu'est-ce qui t'arrive ? Dieu va répondre à la prière ! Dieu va répondre à la prière !» Eh bien, comment va-t-il répondre à la prière ? Cela ne change rien. Un vieil homme s'avança et dit, « Maintenant, qu'en penses-tu qu'il va répondre à la prière ? Je ne te dirai pas, parce que de toute façon, tu es un incrédule. Allez, passe-moi encore quelques briques. Lancez cela comme ça. » Non, monsieur, cela vous est égal. Vous n'avez pas besoin de tout dire aux incrédules, n'est-ce pas? Ça ne change rien. Non, monsieur, certainement pas. Passe-moi encore des briques. Alléluia! Il va répondre à la prière. C'est ce que vous ressentez quand vous savez que ça va arriver, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Eh bien, comment va-t-il le faire? De toute façon, vous ne le savez pas. Alors continuez à passer les briques. Mettez-les toutes là, empilez les vieilles briques ici. Et ce soir-là, il rentre à la maison et dit, oh, Jochebed, imagine, nous allons avoir un bébé. Oh, il sera le libérateur, Dieu va l'envoyer. Oh, ce sera merveilleux. Oh, mais je suis ici. Oh, arrête de t'inquiéter. Oh, Dieu est là-dedans. C'est le moment où Dieu entend. Dieu a des oreilles, Dieu peut entendre. Dieu a des mains, il peut délivrer. Ainsi donc, oh, il avait une foi immense. Vous savez que quand vous priez jusqu'au bout, vous obtenez une réponse. Vous avez beaucoup de foi alors. Oh, avez-vous jamais prié pour quelque chose que vous saviez que Dieu allait vous donner? Vous, les petites filles, est-ce que vous faites cela? Et vous, les petits garçons? Oui, c'est sûr. Alors, c'est lorsque vous savez que ça va arriver, c'est juste. Toute une année passa. Et voilà, Amram rentre un jour de son travail. Et qu'arriva-t-il? Le plus beau petit bébé. Oh, c'était vraiment un petit chéri. Mais à peu près grand comme ça. Alors elle le prend et elle le tend à Amram. Et il l'embrasse. Vous savez, il l'aime, vous voyez? Et la mère le tient. Oh, quel trésor! Elle dit, oh, pourtant j'ai vraiment peur, tu sais. Ce petit bébé, c'est une petite chose si douce. Et savez-vous que la Bible dit que c'était le plus beau bébé qui soit jamais né? Maintenant, je sais que les mamans ne vont pas être d'accord avec moi sur ce point. Elles pensent, vos mères pensaient que vous étiez les plus beaux bébés, n'est-ce pas? Oui, mais elle a le droit de penser cela. Mais la Bible dit que celui-ci était un beau petit bébé. Oh, c'était un vrai bijou. Dieu avait la main sur lui, vous savez. Ainsi, Oh, il était le plus beau petit enfant. Il était là, il faisait juste une sorte de petite grimace, sans même avoir de dents. Avez-vous un petit frère qui fait exactement la même grimace, ou faisait-il la même grimace quand il n'avait pas ses petites dents? Et la première chose, vous savez, waouh, oh, miséricorde! Et il y avait de ces sorcières qui se cachaient. Et qu'arrive-t-il? Que fais-tu? Je descends vite, tu connais les ordres, tu vois, si ces vieilles sorcières au grand nez viennent par ici, elles vont prendre notre bébé et le tuer. C'est vrai, nous ne pouvons pas le laisser crier. Ainsi, oh, il lui fallait un déjeuner ou un dîner. Alors la mère l'emmène dans un coin et s'en occupe, vous voyez? Et ainsi il allait bien. Donc, un ou deux soirs plus tard, il jouait avec lui. Et voilà qu'il se met à pleurer. Voilà qu'il recommence, vous savez, il se met à pleurer. Vite, elle se précipite et le cache. Elle le cache très vite comme cela. Et là, en bas, à l'intérieur du mur, Amram avait arrangé un endroit où il pouvait cacher le bébé. Et alors, tout d'abord, vous savez, ils entendirent quelque chose qui se passait là-haut. Oh, allez! Tout le monde se rassemble à un endroit et ils disent, ce sont elles, ce sont les vieilles sorcières. Elles avec leurs grands doigts aux ongles peints. Et les vieilles sorcières regardaient par là. Et ils regardèrent par la fenêtre et dirent, oui, ce sont elles, elles se tiennent là. Ouvrez! Alors le brave Amram sort, ouvre la porte et dit, que voulez-vous? Vous avez un bébé ici, nous le savons, nous allons le prendre. Nous n'avons pas de bébé à vous donner. Il n'en avait pas. Nous allons entrer, regardez de toute manière. Nous sommes des femmes de la police. Regardez nos insignes. Et ça, est-ce que c'est bien pour une femme? Mais nous sommes des femmes de la police. Nous avons reçu notre pouvoir des autorités. Vous savez, nous en avons aussi quelques-unes maintenant. Et donc elles perquisitionnent, elles entrent, elles renversent le divan, elles ouvrent tous les tiroirs, elles renversent tout par terre, elles prennent toutes les couvertures et les secouent, elles montent, elles voient où le père avait son petit coin secret là-bas. Elles regardent partout, mais elles n'arrivent pas à trouver le bébé. Elles n'arrivaient pas à trouver le bébé. Alors elles vont vers la femme et elles questionnent. Eh bien, la pauvre Jochebed se tenait là, le visage tout pâle. Elles vont vers elle et disent, regarde, nous savons que tu es une mère. Nous ne savons rien qu'en te regardant. Nous savons que tu es une femme qui allait. Et nous savons que le bébé est là. Nous reviendrons, nous l'aurons. Elles sortent, elles claquent la porte, elles s'en vont. Elle dit, oh, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Alors Amram dit, priez. Est-ce la chose à faire? Est-ce la chose à faire? Priez, alors prions! Oh, je ne sais pas quoi faire. Alors il dit, maintenant écoute, tu te calmes, et tu vas encore nourrir le bébé, et je vais monter et prier. Il monte donc, il prie, il dit, oh Jéhovah, tu as des oreilles, Jéhovah, tu as des yeux, Jéhovah, tu peux entendre, tu peux répondre aux prières, tu nous as donné ce bébé, tu nous as donné ta promesse, et tu tiendras ta promesse, et tu garderas ce bébé. Et je suis plein de confiance. Et après avoir prié, étant vraiment fatigué, il tomba juste comme ça, il s'endormit. Il était si fatigué. Il travaillait toute la journée et priait toute la nuit. Il était fatigué. Et alors, savez-vous ce qui arriva? Il s'endormit et il eut un songe. Vous savez que Dieu parle dans les rêves aussi, n'est-ce pas? Certainement, il le fait. Oui, il le fait, il le peut, voyez? Et il parle dans les rêves. Oh, il se réveilla et il dit, c'est ça, j'aurais dû y penser. Voilà ce que nous devons faire. Mais je ne vais rien dire à ce sujet. Il descend, il dit, Jochebed, oui mon chéri, oh, je suis si affligé que je ne peux pas dormir. Oh, va dormir, dors, c'est fini. Mais comment le sais-tu? Oh, je le sais simplement, j'ai simplement confiance. Et ce soir-là, au lieu de monter prier, le père descendit au sous-sol et il travaille. Tiens, je me demande ce qu'il est en train de faire. Glissons-nous là en bas et regardons-le. Je le vois là en bas et cela claque. Et il prend un roseau, il l'examine, il le courbe, regarde s'il est bon, il fredonne. Et le petit Aaron sortit ce jour-là. Et il ramassa une pleine brassée de roseaux et les posa dans le sous-sol. Comme a dit le cantique, Dieu prend soin de vous. La religion de l'ancien temps, elle doit être tout à fait vraie. Et puis il frappe sur la claque alentour. Elle dit, Amram, qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia, rien chéri, vas-y. Et il chante, il fredonne, c'est la religion de l'ancien temps, c'est la religion de l'ancien temps. Apportez ceci ici, vous savez, c'est la religion de l'ancien temps. Chut, scellons tout cela. Et c'est assez bon pour moi, donnez-moi cette vieille bonne, il est en train de faire quelque chose. Vous savez, après une ou deux semaines que passées, il arriva que tous se demandaient ce qu'il était en train de faire. Alors une nuit, quand ils étaient tous endormis, il se glisse là en haut et il apporte cette petite chose, vous savez, et la pose ainsi. Et il l'apporte. Il soulève la couverture où Jochebed, sa femme, dort et il le glisse sous la couverture. Et le petit Aaron et la petite Myriam dormaient, vous savez. Oh, c'était une gentille petite enfant, cette petite fille. Et le petit Aaron aussi. Il le mit donc là-dessous. Il dit, Jochebed, ma chérie, elle dit, étais-tu dans le sous-sol en train de prier à 7 heures de la nuit, Amram? Il dit, non, j'étais dans le sous-sol en train de louer Dieu. Elle dit, que faisais-tu? Il dit, je vais te le dire. Maintenant, tu sais que ces vieilles sorcières vont revenir. Oui. Et je vais te dire ce que nous allons faire. Il y a 3 mois que nous avons le bébé, il faut nous en débarrasser. Oh, Amram, il faut que tu fasses quoi? Il faut que nous nous débarrassions du bébé. Nous débarrasser du bébé? Oui. Oh, mais tu es cruel. Non, je ne suis pas cruel. Non, non, non. Je sais ce que je fais. Mais que veux-tu dire? Alors tu seras aussi méchant que Pharaon. Tu voudrais te débarrasser du bébé. Oui, je vais me débarrasser du bébé. Mais oh, nous ne pouvons pas. Maintenant, écoute. Si nous le gardons, nous allons le perdre. Et si nous le donnons à celui qui nous l'a donné, il le trouvera. Est-ce vrai? Maintenant, si tu le gardes, nous allons le perdre. Mais comment vas-tu le perdre? Eh bien, ces vieilles sorcières viendront le prendre. Et regardez, si vous gardez cette âme et allez vivre comme le monde, vous allez la perdre. Les sorcières de l'enfer vous poursuivent, et c'est vrai. Toute cette vieille folie du monde, toutes ces choses là-dehors vous poursuivent. Si vous la gardez, vous la perdrez. Mais si vous la rendez à celui qui vous l'a donnée, vous la retrouverez et vous la garderez. Qu'est-ce que c'est maintenant? Si nous la gardons, que faisons-nous?
La perdons.
Nous la perdons. Mais si nous la donnons à Christ, nous la quoi? Nous la gardons. Amen. C'est bien. Maintenant, vous répondez bien. Maintenant, il dit, Jochebed, si nous le gardons, nous allons le perdre. Donc si nous le rendons à celui qui nous l'a donné, alors nous le garderons. Maintenant vous avez une âme, et maman et papa et vous de même. Mais si vous la gardez, vous allez la perdre, c'est vrai. Les sorcières de l'enfer la prendront, elles sont toutes après elles. Mais si vous la rendez à celui qui vous l'a donné, vous la garderez pour la vie éternelle. Alléluia! Amen! Excusez-moi mes enfants. Je suis assez démodé pour me mettre à crier. Si vous la gardez, disons-le ensemble. Si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la rendez à celui qui vous l'a donné, vous la garderez. Amen. N'oubliez pas maintenant, donnez-la lui. Maintenant écoutez bien. Oh, elle commença à pleurer. Elle dit, oh, qu'est-ce que tu vas en faire? Elle dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as sous mon lit là? Il dit, je vais te le montrer. Et il le sortit. Oh, mais c'est un petit panier de roseaux. C'est un petit bateau, voilà ce que c'est. Il n'a pas de gouvernail, il n'a pas de voile, il n'y a pas de canon dessus. Et pourtant, il va contenir la cargaison la plus précieuse qu'un bateau ait jamais contenu jusqu'à maintenant. Entendez cela? Il n'a ni capitaine, ni équipage. Frère, je connais un bateau comme ça pour les adultes aussi. Oh, dit-elle, Am, laisse-moi le regarder. Amram, laisse-moi voir. Elle va voir. Il dit, regarde, j'ai fait un petit couvert dessus. Tu vois, tu lèves le petit couvert. Elle dit, oh, mais il sent mauvais. Oh là là, oh. Il dit, oui, il sent mauvais. Mais pourquoi? Je l'ai enduit de goudron. Il est plein de poids. La poix, c'est le goudron, vous savez. Donc, on l'enduit de poids complètement. C'est ce qu'il avait fait fondre là en bas. Il l'avait versé sur les roseaux. Il l'avait goudronné. Il dit, tu vois, l'eau ne peut pas entrer dedans. Tu vois, il est obturé de partout. Et il dit, l'eau ne peut absolument pas entrer là-dedans. Je l'ai goudronné. Elle dit, ouf, ça sent mauvais. Vous, les enfants, vous savez ce que c'est que le goudron quand on entretient les rues. Oh, quelle odeur terrible! Mais ça garde le... Ça bouche tous les trous dans la rue. Et c'est comme ça que ça marche. Ça empêche l'eau d'entrer. Et c'est ce que fait la prière pour le croyant. C'est ce qui empêche quotidiennement le monde d'entrer en vous. C'est quand vous vous goudronnez sur les genoux et que vous dites « Seigneur Jésus !» Et le sang descend et vous scelle complètement pour que le diable ne puisse pas vous avoir. Voyez? C'est vrai, voyez? Ainsi donc, oh, très souvent, les gens viennent et disent, c'est terrible, mais ça n'a pas d'importance, ça vous garde en sécurité. Voyez-vous? C'est le principal. Être en sécurité. On vous dit, mais vous êtes démodé, mais ça n'a pas d'importance, cela vous garde en sécurité. La fête des mères est un jour merveilleux. Et peut-être ce soir, je changerai mon sujet, et je continuerai ce soir et dire ce que fit cette mère et comment elle le fit. Ce fut elle qui éduqua un petit garçon pour qu'il conduise tout Israël vers la terre promise. Oh, c'était une vraie mère. N'est-ce pas qu'elle était une vraie mère?
Amen.
Maintenant, vous avez une vraie mère aussi, et votre mère prie pour vous. Il était un vrai père, et papa prie pour vous. Et maintenant, nous allons tous prier ensemble et demander à Jésus de nous aider. Frère Neville, voulez-vous venir vous agenouiller avec nous? Et courbons la tête partout. Cher Père Céleste, cette simple petite histoire ce matin, à cette époque si ancienne, où un vrai père et une vraie mère, où un vrai croyant viennent à toi, t'adorent, et crois en toi, il y avait de la détresse dans ce pays à cette époque. Et comment savons-nous qu'il n'y a pas un petit Moïse moderne agenouillé ici ce matin? Comment savons-nous qu'il n'y a pas une petite Myriam moderne agenouillée ici ce matin aussi, la prophétesse? Oh, cher Père, ces petits enfants t'aiment et ils viennent s'agenouiller à la croix, reconnaissant qu'ils ont une âme qui doit être sauvée, et que la donne maintenant. Car nous venons juste de lire dans ta parole, si vous la perdez, vous la retrouverez, et si vous la gardez, vous la perdrez. Et Père, ils ne veulent pas garder leur âme pour eux-mêmes, ils ne veulent pas vivre pour eux-mêmes, ils veulent te donner leur âme, pour qu'en la donnant, ils trouvent la vie éternelle. Accorde-le, Seigneur. Bénis tous les petits garçons et toutes les petites filles autour de l'autel. Bénis tous les pères et les mères qui sont ici ce matin. Oh, que ton amour, ta grâce et ta miséricorde soient sur eux tous. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, tous nos manquements. Enlève la maladie du milieu de nous. Envoie les anges. Alléluia. Oh, Dieu, toi qui as ordonné à Gabriel et à Saint-Ange de se mettre en marche, combien plus d'anges s'attendent ici en voyant ces pauvres petits-enfants agenouillés à cet autel ce matin. Tout autour de cet autel et dans toute cette église se tiennent les anges de Dieu. L'ange qui tient le registre des actes de chacun est ici, notant leur nom dans un livre. Ils perdent leur âme pour pouvoir la retrouver en Christ. Accorde-le, Seigneur, qu'à partir de ce jour, leur petite vie soit douce et humble, qu'ils soient des enfants obéissants envers leurs parents et envers leur Père Céleste, jusqu'au jour où tu les rappelleras à la maison, guide-les dans leur petite barque, quand ils arriveront près du tourbillon, à chaque fois qu'elle sera coincée dans les roseaux, que les anges de Dieu les poussent dans les courants qui coulent plein de l'amour de Dieu. Accorde-le, Seigneur, à la fin du chemin, qu'ils trouvent une demeure pleine d'amour, et leur mère et ceux qu'ils ont aimés là-bas dans la gloire, là où Dieu se tient dans les portes pour souhaiter la bienvenue en ce jour. Accorde-leur, Seigneur.
Pardonne-nous à tous nos péchés et nos manquements, et à partir de ce jour, aide-nous à être complètement à toi. Nous remettons tes petits-enfants entre tes mains maintenant, et tes mères avec eux, Seigneur, qu'elles soient des mères telles qu'elles doivent être, en ce jour de la fête des mères, ce jour de reconnaissance qui est offert aux mères, et puissent-elles être de meilleures mères encore à partir de ce jour. Que les enfants soient de meilleurs enfants, que nous soyons tous meilleurs, Seigneur, à ton service. Accorde-le, Seigneur, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons chanter un petit chœur. Est-ce que vous croyez que Jésus vous a sauvé? Voulez-vous que Jésus prenne soin de vous maintenant, alors que vous êtes debout? Alors levez votre main vers lui, comme ceci maintenant. Je désire que vous tourniez vers vos papas, vers vos mamans et vers tous. Tournez-vous de ce côté. Maintenant, regardez. Vous, papa, maman. Maintenant, vous, toutes les petites filles et les petits garçons, levez-vous. Maintenant, combien acceptent Jésus comme son sauveur? Vous allez mettre votre confiance en Jésus à partir de maintenant, pour qu'il prenne soin de vous, comme il le fit pour Moïse. Voyons vos mains qui se lèvent. Chacun d'entre vous, c'est très bien. Maintenant, qu'arrivera-t-il? Si vous gardez votre âme, vous quoi?
Perdez.
Vous la perdrez. Mais si vous la donnez à Jésus, qu'arrivera-t-il? Vous la garderez. Maintenant, si Jésus vous a reçu maintenant ce matin, alors quoi? Vous appartenez à Jésus maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes le petit garçon et la petite fille de Jésus. Regardez ces petits êtres qui se tiennent ici avec des larmes dans les yeux. Ne croyez-vous pas que Jésus ne voit pas cela? Amen, il le voit. Des hommes de main. Oui, c'est vrai. Amen. L'armée de Dieu. Maintenant, regardez vers moi, maintenant, et chantez ceci avec moi, parce que vous êtes des soldats maintenant. Savez-vous cela? Soldats de la croix. Maintenant, il se peut, je ne marche jamais. Vous connaissez celui-là? Bien, c'est bien. Il y a longtemps, c'est un vieux cantique de l'école vivante que j'ai appris. Il se peut que je ne marche jamais, alors maintenant regardez-moi. Père Bonhomme fait des gestes en chantant les paroles que je suis dans l'armée du Seigneur, ma réduiteur. Il se peut que je ne marche jamais dans l'infanterie, ni ne chevauche dans la cavalerie, ni ne tire dans l'artillerie. Il se peut que je ne vole jamais au-dessus de l'ennemi, mais je suis dans l'armée du Seigneur. Je suis dans l'armée du Seigneur. Oh, je suis dans l'armée du Seigneur. Chantons-nous ensemble maintenant. Il se peut que je ne marche jamais dans l'infanterie, ni ne chevauche dans la cavalerie, ni ne tire dans l'artillerie. Il se peut que je ne vole jamais au-dessus de l'ennemi, mais je suis dans l'armée du Seigneur. Croyez-vous pouvoir chanter cela tout seul? Alors venez les enfants, venez ici maintenant. Je veux que vous veniez tous faire la même chose que moi. Venez tout autour, là derrière l'autel ici maintenant. Venez juste ici, que chacun vienne juste ici où je suis, voyez-vous? Venez juste ici, personne de ce côté de l'autel, mais venez juste ici, c'est ça. Venez juste là. Maintenant tournez-vous par là et vous regardez tous de ce côté-ci comme cela, c'est ça. Je vais vous montrer ce que les gentils petits garçons et les gentilles petites filles font après avoir connu Jésus. Alors maintenant, revenez juste ici, quelques-uns d'entre vous, maintenant c'est ça. Maintenant, regardez là. Maintenant, quand je dis, il se peut que je ne marche jamais dans l'armée, vous marchez dans l'infanterie, alors vous marchez aussi. Quand je dis, il se peut que je ne chevauche jamais dans la cavalerie, vous faites la même chose que moi. Alors maintenant, éloignez-vous un petit peu, hein. Restez bien en arrière maintenant, il me faut de la place. Plus loin maintenant. Ça va. Maintenant, allons, chantons. Il se peut que je ne marche jamais dans l'infanterie, alors vous marchez. Il ne chevauche dans la cavalerie, il ne tire dans l'artillerie. Il se peut que je ne vole jamais au-dessus de l'ennemi, mais je suis dans l'armée du Seigneur. Oh, je suis dans l'armée du Seigneur. Je suis dans l'armée du Seigneur. Prêt. Il se peut que je ne marche jamais dans l'infanterie, ni ne chevauche dans la cavalerie, ni ne tire dans l'artillerie. Il se peut que je ne vole jamais au-dessus d'ennemis, mais je suis dans l'armée du Seigneur. Amen. Restez debout tranquillement. Combien aiment-ils cela? Dites Amen. Maintenant, Père Céleste, bénis ces petits-enfants aujourd'hui. Ils sont à toi, Seigneur. Ils t'ont donné leur vie. Ils ont entendu la petite histoire de Moïse et comment tu l'as protégé. Ils ont entendu parler d'une bonne mère et d'un bon père qui les ont protégés et élevés. Et ces petits-enfants aussi ont de bonnes mères et de bons pères. Et je te prie, Père, de les protéger et de les conduire dans le courant de la vie, et que les anges de Dieu prennent soin d'eux, et donnent, puis sois là à la fin pour les recevoir dans les derniers jours, Seigneur, dans ton royaume. Nous te le demandons dans le nom de Christ. Amen. Maintenant, vous pouvez retourner à vos places et dire à papa, à maman, comme vous sentez bien. Amen. Tous les jours de leur voyage, ils étaient conduits. Maintenant, vous connaissez celui-là, ce Dirty. Tous les jours de leur voyage, ils étaient conduits. Vers la terre promise, ils étaient conduits par la main du Seigneur qui les dirigeait avec certitude. Ils furent menés au bord de Canaan, tous ensemble. Le signe de feu pendant la nuit et le signe de la nuit pendant le jour, planant juste devant eux, alors qu'ils voyageaient sur notre route. Oh, sois un guide et un conducteur, jusqu'à ce que nous ayons passé le désert, car le Seigneur notre Dieu, en son propre temps, nous guidera enfin vers la lumière. Combien sont-ils malades ce matin, et désirent qu'on prie pour eux? Levez votre main. Étant donné qu'il est un peu tard, peut-être allons-nous repousser le service de guérison jusqu'à ce soir et offrir seulement une parole de prière maintenant, parce que nous sommes un peu en retard. Avez-vous aimé la petite histoire?
Amen. Pensez-vous que c'était bien pour les petits?
Amen.
Oui, nous les oublions souvent nos prédications. Nous ne devrions pas faire cela. Voyez, je n'ai jamais l'occasion d'enseigner à l'école du dimanche, et ce matin, c'était le moment de leur parler. Je ne voulais pas vous fatiguer, mais je voulais vous raconter cette petite histoire. Et rappelez-vous, vous les petits-enfants, que ce n'est pas n'importe quelle petite histoire que vous pouvez lire n'importe où. C'est la vérité, c'est la vérité. Dieu a fait cela, et il est avec vous maintenant. C'est bien. Courbons la tête maintenant, pendant que nous chantons notre dernier cantique, lentement, prends le nom de Jésus avec toi, comme un bouclier contre tous les ennemis. C'est bien. Prends le nom de Jésus.
De la lumière du soir diffuse d'autres messages semblables à celui-ci. Si vous désirez la liste de nos productions, veuillez écrire à l'adresse suivante. Les éditions de la lumière du soir, Roger Dans, D-A-N-Z, 2738, Cours, dans le canton de Berne. Cours s'appelle C-O-U-R-T. Je répète l'adresse, les éditions de la Lumière du Soir, Roger Dans, 2738, Cours, Suisse. Que le Seigneur vous bénisse richement.
Je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons emmener le bébé et nous allons nous en séparer pour un petit moment. Et nous allons prendre le bébé, le mettre là-dedans et le mettre sur le Nil. Oh non, 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 Amram, tu ne vas pas mettre le bébé sur la rivière. Si, si, je sais ce que je fais. Il avait eu un songe, il savait quoi faire. Voyez, Dieu lui avait donné les instructions, il savait ce qu'il devait faire. Il avait construit ceci et il avait vu que c'était le type même de l'arche qui avait sauvé Noé, Noé autrefois dans son temps. Alors il dit, regarde, j'ai fait un petit trou juste en haut pour qu'il puisse respirer. Tu vois, il peut avoir un rayon de soleil à travers cela. Et vous savez, l'arche dans la vieille Bible, il y avait bien longtemps, était faite de la même manière. Elle avait une ouverture tout à fait en haut pour pouvoir regarder, vous voyez, et donc il fallait qu'il regarde en haut. Ainsi donc, Ce pauvre petit bébé sans nom n'avait même pas de nom. Un petit bébé sans nom. Et pourtant, c'était le plus beau petit bébé du monde. La nuit suivante, quand ils rentraient, ils attendirent jusqu'à environ 3 heures du matin. Et alors, il avança et il pria, puis avança et dit, « Maintenant allons, Jochebède, lève-toi. » Alors donc, ils réveillèrent le petit Aaron et la petite Myriam. Elle dit, « Vous n'allez pas prendre notre petit frère, n'est-ce pas, et le mettre sous le Nil où il y a tous ces vilains crocodiles ?» Et alors, il repoussa ses petits cheveux comme ça en arrière et elle avait de jolis yeux et de beaux cheveux. Et donc, il l'embrassa sur le coin de la joue et il dit, « Ma petite chérie, cela me fait mal à moi aussi. Ça me fait mal aussi, mais nous devons le faire. Vous voyez, mes petits-enfants, quelquefois, nous devons faire des choses qui nous font mal, en quelque sorte. Mais nous devons le faire de toute manière. » Quand les filles disent, « Hé, avez-vous déjà fumé une cigarette ?» Vous dites, « Non. » Alors essaye d'en fumer une. « Oh, je suis ta copine, tu sais. Oui, essaye. » Mais vous, ça peut vous faire un peu mal. Mais vous dites, « Oh, je ne veux pas, je ne veux pas. » Elle dit, « Est-ce que tu veux revenir à la représentation avec moi ce soir ?»« Non, oh, je ne vais pas au spectacle. » Voyez-vous ? « Ça fait peut-être un peu mal, vous voyez ? Mais tu n'es qu'une vieille barbe. Ne croyez pas cela. Cela fait peut-être un peu mal, mais détournez simplement la tête, c'est ce qu'il vous faut faire. Vous voyez ? Faites toujours cela. Faites la chose juste, c'est bien. » Et maintenant, quand les filles apprennent à danser sur les pointes et des bêtises pareilles et veulent que vous le fassiez, dites simplement, non, non, vous ne le faites pas, voyez. Oh, mais c'est très amusant. Vous ne vous inquiétez pas de savoir si c'est amusant. Vous voulez faire ce qui est juste. Alors vous faites toujours ce qui est juste. Maintenant, vous vous rappelez bien ça, maintenant. Vous n'allez pas l'oublier, n'est-ce pas? Maintenant, que firent-ils? Ils prirent donc le petit bébé. Et le petit Aaron arriva et dit, « Papa, que vas-tu faire avec notre bébé ?» Il dit, « Aaron, viens ici sur mes genoux, mon chéri. » Il dit, « Regarde Aaron, si nous gardons le bébé, qu'allons-nous faire ?»«
Le perdre. »
« Et le perdre ? Mais si nous remettons le bébé entre les mains de celui qui nous l'a donné, qu'allons-nous faire ?»« Nous le garderons, c'est vrai. Mais comment allons-nous le faire, papa ?»« Je ne sais pas. » Je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu va le faire, voyez-vous. Et donc, ils mirent le petit bébé dedans, et ils partirent. Et maintenant, ils s'en vont. Ils se dirigent vers la porte, ils arrivent à la porte, ils regardent dans la rue, à droite, et à gauche, il n'y a personne. Personne ne vient. Il dit, viens Jochebède, viens Aaron, oui venez, viens Myriam, partons. Ils prennent leur petite arche, et ils descendent vers les roseaux du fleuve. Oh! C'est bien avant le lever du jour. Et voici le petit Aaron, la verrière, selon la petite Myriam, le petit frère, la petite sœur, il pleure. Et la pauvre petite Jochebède, elle arrive ainsi. Il regarde, vous voyez, attention. Oui. Alors ils descendent de la rue. Attention. Ils emballent le petit bébé. Et la mère emballe le bébé dans ses langes, et le papa emballe l'arche. Et ils arrivent là-bas au fleuve. Oh, c'est un très grand fleuve, le deuxième du monde. Oui, c'est un de ces grands fleuves, aux eaux bruyantes, plein de grands et gros crocodiles et d'alligators. Oh, ils étaient bien gras. Et elle dit, Jochebède dit à Amram, son mari, oh, et si les alligators le prennent, et si les crocodiles le touchent, il dit, « Ne t'inquiète pas, s'il leur arrive d'approcher leur nez de ce goudron, ils se sauveront, tu vois. C'est pourquoi ça sent mauvais, tu vois. Ils relèveront le nez. » Il dit, « Ils ne pourront pas sentir la chair humaine et ils s'en iront. Ce goudron sent si mauvais qu'ils se sauveront. Ça ira bien, ne t'inquiète pas. » Donc il et Amram posa la petite arche. Et elle dit, « Maintenant, donne-lui la tétée. » Et la mère prend donc le bébé et le nourrit. Il prend donc un bon petit déjeuner le matin de bonne heure. Et puis, elle l'embrasse. Elle dit, maintenant Aaron, tu peux l'embrasser. Et Aaron l'embrasse. Puis elle le tend à Myriam, et Myriam l'embrasse. Et la mère l'embrasse. Et, oh, dit-elle, je seulement... Maintenant, écoute, nous devons être des soldats, voyez-vous? Nous devons être des soldats. Maintenant, vous voulez tous l'embrasser encore. Alors, ils l'embrassèrent tous à nouveau. Puis, ils le mirent là-dedans. Et la mère prépare une petite couverture et la met dessus. Un petit oreiller et le met aussi. Elle dit, « Cher petit bébé, que Dieu te bénisse. » Dieu en prendra soin. Va, ne t'en fais pas. Il ferme le petit couvercle. Et la première chose qui arrive, le père commence à retirer son manteau, il retire sa chemise, puis il entre dans l'eau en pataugeant. Que croyez-vous qui se passe au ciel pendant ce temps-là? Alléluia! Vous savez, quand quelque chose arrive ici-bas, il arrive aussi quelque chose là-haut. Amen! Je peux voir Dieu descendre de son trône, s'avancer et dire, « Gabriel, Gabriel, où es-tu ?» Gabriel dit, « Me voici, Seigneur. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Il dit, « Vous tous les anges, je vais vous montrer quelque chose. J'ai des gens qui croient en moi. Oui, j'ai des gens qui me font confiance. Venez ici, c'est bon pour vous tous les anges. Jetez les yeux sur ceci. Regardez. Où est-ce ? Juste là en bas, regardez. Oui, 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 je vois. Regardez juste en bas. Vous voyez le bord de ces joncs, ces iris d'eau, est-ce là? Oui? Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est? Il y a là un homme qui tend les mains vers le ciel, il est sur ses genoux, il m'appelle. Il y a là une mère qui pleure, et deux petits enfants qui pleurent. Ils me font confiance jusqu'au bout. Gabriel, te rappelles-tu quand tu y es allé? Tu te rappelles de cet homme? Oui, je suis allé vers lui dans la chambre cette nuit-là. Et je lui ai parlé. Il me fera confiance. J'ai des gens qui croient en moi. J'ai des gens qui me feront confiance jusqu'au bout. Tu le vois? Regarde-le. Il vit si courageusement. Et le père marche dans l'eau. Il se met à pousser le petit bateau. Et je peux entendre le Seigneur dire, « Gabriel, oui Seigneur, rassemble 10 000 anges. Donne l'ordre de se mettre en marche immédiatement. Appelle les armées du ciel à sortir. Envoie-les le long des rangs du ciel, du haut jusqu'en bas, et place-les tout le long du Nil. Je commande qu'aucun crocodile ne touche ce bateau. Rien ne le touchera, que pas même un morceau de bois ne s'en approche. Alléluia !» Et Gabriel dit, « Ce sera fait. Bien, sonnez de la trompette. 10 000 anges viennent en armes. Le pilote, où seras-tu, Seigneur ? Je serai de l'autre côté. » Il est toujours du côté où l'on reçoit. J'attendrai de l'autre côté. J'ai un but. Quand les gens ont confiance en moi, j'ai quelque chose. Un but. Ce sera bien pour eux. Bien. Le Seigneur va de l'autre côté. Et je vois Moïse ou le petit Aaron. Et eux tous, ils remontent la rue en pleurant. Regardez. Et la petite Myriam, elle est toujours là. Elle regarde. Elle dit. Oh. Ils disent. Viens Myriam. Le jour se lève. Viens, les coqs annoncent le matin, viens, le jour se lève, viens ma chérie, partons. Elle dit, oh papa, papa, s'il te plaît, encore un petit moment, laisse-moi rester encore un peu, laisse-moi regarder, voir ce qui arrive, je retournerai à la maison dans un moment. Oh, c'est une bonne idée, Myriam, c'est peut-être bien, tu restes là et tu regardes ce qui se passe. Bon, je vais regarder, mais maintenant, après un petit moment, tu te dépêches de rentrer. Tu vois juste ce qui se passe, et tu viens, et tu nous apportes des nouvelles de ce qui arrive. Très bien, papa. Et il rentre à la maison. Il fallait qu'il se dépêche. Et la petite Myriam reste là et regarde. Tout d'abord, le jour se lève. Oh, 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 mais qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, c'est un tronçon de bois. Non, serait-ce un alligator? Oh, il tourne. Ah, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'un tas de gens ne voient pas, voyez-vous? Ce petit bateau voguait, flottait à travers tout cela. On pensait qu'il n'avait pas de pilote. On pensait qu'il n'avait pas de capitaine. Il en avait un. Ils étaient rassemblés tout autour. Voici un petit crocodile, il dit. Oh, regardez là. Voici qu'il arrive, flottant comme cela, il va. Oh, non, non. On ne peut pas s'approcher de ce bateau. Dedans se tient celui qui affranchira, celui qui délivrera, qui rendra la liberté à 1 million de juifs qui avaient besoin d'être libérés. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas le toucher. Elle flottait, cette petite arche enduite de goudron. Elle flottait en descendant la rivière. La première chose qui arrive, elle est prise dans un remous. Oh, dit Myriam. Oh, oh, regardez ça, ce remous, regardez-le comme cela. La première chose qui arriva, tout à coup, il s'éloigne simplement. C'est comme ça que ça se passe. Nous arrivons dans un remous quelquefois, cette petite barque. Ne vous en faites pas, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Il y en a 10 000 sur la liste de départ maintenant. Et la petite Myriam, elle descend, puis elle grimpe sur ce gros rocher. Elle jette un regard par-dessus comme cela, elle regarde en bas, et elle observe l'arche. Elle passe à travers ceci, passe à travers ce bouquet de roseaux. Un moment après, elle est bloquée là. Elle se dit, oh, mais maintenant je me demande qui va arriver. Et son papa lui avait dit, maintenant que personne ne voit que tu surveilles cela, si quelqu'un arrive, agis comme si tu ne regardais même pas. Va simplement vers un autre coin. Ne fais surtout pas comme si tu étais en train de le surveiller. Passe simplement. Bon, a-t-elle dit. Il descend le long de la rive, il est bloqué. La première chose qui arrive, cela attire beaucoup de pêcheurs. Elle fait comme si elle était simplement une petite fille qui se promène. Il était environ 10 h du matin, vous savez. Elle marche le long de la rivière, mais elle garde l'œil sur lui. Elle regarde de côté pour voir où il va. Un moment après, elle passe près d'un autre groupe. Mais elle continue à surveiller. Elle va un peu plus loin. Elle continue à marcher. Elle va un peu plus loin. Et au bout d'un moment, elle arrive à un grand mur. Oh là là! Mais il passe derrière ce mur. Que peut-elle faire? Elle ne sait que faire. Elle ne peut pas franchir le mur. Alors elle patauge dans l'eau. Elle passe comme ceci. Elle se glisse par là. Elle va au-delà. Elle continue à marcher. Et ce qui lui arrive, c'est qu'elle est dans un beau jardin. Les fleurs s'épanouissent partout et c'est très joli. Maintenant, écoutez juste un moment. Maintenant, remarquez-vous les petites filles. De jolies fleurs. Eh oh, les arbres, tout est si bien fait. C'est si joli. C'est un parc. Oh, dit-elle. Regardez là et là. Oh là là. Mais je suis dans le parc du palais. Le palais de Pharaon, dans le parc. Qu'est-ce que je vais faire ici? Si jamais ils m'attrapent ici, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et elle observe. Et la petite arche arrive, elle s'arrête en quelque sorte là dans l'eau, elle flotte simplement sur place dans l'eau. Je me demande pourquoi. Elle entend quelqu'un parler. Elle se glisse vite sous les buissons. Elle s'assoit, regarde dehors comme ceci, vous voyez, la petite Myriam. Mais elle regarde et elle voit ce qui se passe. D'abord, voici un grand homme fort, un noir. Il installe un dais comme ceci, et les servantes suivent, elles chantent. Et voici une femme. Elle a un grand bandeau doré autour de la tête, avec juste là-devant un gros serpent à la bouche ouverte, comme ça. C'est une belle femme. Elle descend, elle porte de très beaux vêtements, de très belles choses. Et j'entends l'une des servantes dire, « Votre Majesté, pensez-vous que l'eau sera chaude ce matin ?» Myriam se dit, « Majesté, oh, je dois être royal, la royauté, je suis donc dans le parc, et si on m'attrape ici, que me fera-t-on ?» Bon, elle descend, et ces grands hommes noirs installent ceci, le tiennent comme ceci, elle descend jusqu'au bord de l'eau, elle retire ses chaussures, une servante tient la serviette, une autre tient le savon, elle descend prendre son bain du matin. Elle descend donc là et commence à se préparer pour son bain. Elle retire ses chaussures, elle dit, je vais tremper mes doigts dans l'eau et voir si elle est déjà chaude. Oh, elle est très bonne, juste. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, Myriam, la petite Myriam dit, oh, elle l'a découvert. Oh, dit-elle, est-ce un crocodile? L'un de ces grands hommes forts dit, juste une minute, je vais voir ce que c'est. Il l'entre dans l'eau en éclaboussant, il le prend comme ceci, il le sort, il dit, Votre Majesté, il le donne à la servante le prend, elle lui donne comme ça, elle le pose à terre. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent mauvais, c'est recouvert de goudron. Regardez, il y a un trou tout en haut. Et Myriam dit, oh, voilà où se trouve mon petit frère, voilà où se trouve mon petit frère. Et donc ils l'ouvrirent comme ceci. Oh, c'est un bébé. Et il commença le plus beau petit bébé du monde. Et oh, un Dieu qui peut susciter la haine peut susciter l'amour. Et tout l'amour qu'il peut mettre dans un cœur humain, celui d'une mère pour un enfant, il l'avait mis dans le cœur de cette jeune fille. Et elle, C'est un des Hébreux. Je sais ce que c'est à cause de mon méchant père. Il est si mauvais. Il a ordonné que tous ses petits-enfants hébreux soient tués. Et une de ses mères a simplement lancé son bébé là, espérant qu'il accosterait où que ce soit. Oh, mais ça sent mauvais. Eh bien, il ne tuera pas celui-là, parce que celui-là est à moi. Vous voyez comment Dieu agit? Elle le prend et elle l'embrasse. Et le bébé pleura. Et quand le bébé pleura, cela toucha son cœur. Elle dit, pauvre petit, elle dit, je vais le prendre et je vais l'appeler. Je vais lui donner un nom. Et c'est là qu'il eut son nom. Quel était son nom?
Moïse.
Et Moïse signifie sauver des eaux, voyez-vous. Elle dit, maintenant je l'appellerai Moïse et il sera mon bébé à moi. Je le garderai. Mais maintenant elle dit, mais je suis une jeune fille, je ne peux pas l'allaiter. Je ne sais pas comment faire pour qu'il soit nourri. Il n'avait pas en ce temps-là des biberons et toutes ces choses. Alors, les femmes ne fumaient pas de cigarettes. Elles ne faisaient pas des choses comme elles font maintenant. Elles ne s'empoisonnaient pas. Alors elle dit, eh bien, si vous connaissez une, elle dit, que vais-je faire? Alors elle dit, Et l'un d'eux dit, je vais vous le dire, votre majesté. Je vais trouver une nourrice pour votre bébé. Oh, dit-elle, voilà qui est bien. Et un petit quelque chose par là, un ange qui se tenait là dans le buisson, dit, Myriam, voilà ta chance, voilà ta chance. La petite Myriam sortit en courant, et la voix dit, ne dis rien maintenant, ne révèle rien. Tu t'approches, et tu dis que tu vas trouver une nourrice, et tu vas chercher ta mère. Très bien, elle dit donc ainsi, elle dit, votre majesté, maintenant, celle-ci aurait dû dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais vous voyez, Dieu a surveillé tout cela. Pourquoi? Il avait 10 000 anges en marche, vous voyez, son programme va se dérouler, il avait 10 000 anges qui se tenaient là. Ainsi donc, voici ce qui arriva. Elle dit, oui ma chère petite, que fais-tu ici? Elle dit, je vous ai simplement vu avec le bébé. Elle dit, je sais où il y a une bonne mère qui prendrait soin de votre bébé pour vous. Elle lui dit, va la chercher et dis-lui que je lui donnerai $300 par semaine pour prendre soin de ce bébé. Et je lui donnerai toute une suite de pièces dans le palais. Si tu sais où il y a une femme juive qui puisse nourrir et qui allait de ce bébé, c'est mon bébé. Elle dit, oui, votre majesté, je vais en chercher une. Elle dit, maintenant attends une minute. Avant d'entrer dans le château, il faut avoir un mot de passe. Tu vois, tu ne connais pas le mot de passe. Chaque jour, nous avons un mot de passe. Maintenant, le mot de passe aujourd'hui, tu savais ce que c'était? Une fourche et une botte de foin. Elle dit, c'est ce que tu dois dire pour franchir la porte. Alors la petite Myriam s'en va vers sa maison aussi vite qu'elle peut. Elle saute par-dessus le mur, elle court dans la rue, de ce côté, puis de ce côté, aussi vite qu'elle peut. Elle rentre en courant dans la maison. Et Amram venait juste d'arriver. Et Josué avait dit, oh, ils étaient tristes. Ils se demandaient ce qui se passait. Elle dit, mon pauvre bébé, mon pauvre bébé. Il dit, maintenant écoute seulement. Il dit, je viens juste descendre de la rue il y a un moment. Et cette pauvre mère avait alerté tout le monde là toute la journée. Ils sont venus dans tout le voisinage ce matin. Ils ont écrasé la tête de tous les bébés qui étaient. Et il dit, comme ils pleuraient et criaient. Alors maintenant pour ton bébé, tu sais où qu'il soit. Là où est notre bébé, Dieu prendra soin de lui. Juste à ce moment, quelqu'un... Oh, les voilà à la porte maintenant. Ils allèrent donc voir. Non, ce n'était pas elle, c'était Myriam. Elle dit, oh, Myriam, entre chérie, qu'est-il arrivé au bébé? Elle dit, oh maman, comme j'ai faim. Elle dit, mais qu'est-il arrivé au bébé? Elle dit, je suis à moitié morte de faim, maman. Elle dit... Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Je suis presque morte de faim, maman. Elle dit, mais qu'est-il arrivé au bébé? Elle dit, maman, j'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'il y a dans la maison. Elle dit, mais on va te donner quelque chose à manger. Mais qu'est-il arrivé au bébé? Elle dit, oh, le bébé va bien, maman. Mais donne-moi quelque chose à manger, je suis si contente. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, donne-moi quelque chose à manger, je vais mourir de faim. Pouvez-vous imaginer cela? Elle dit, Myriam, voici ton père et ta mère. Où est le bébé? Et Myriam dit, maman, je te l'ai dit, le bébé, je l'ai vu, il va bien. Alors maintenant, maman, donne-moi quelque chose à manger, je meurs de faim. Tu sais, je suis presque mort de faim. C'est comme ça que vous êtes quand vous rentrez de l'école, vous savez. Oh, il faut absolument que vous mangiez quelque chose. Alors, elle a lui préparé un sandwich, et elle dit, maintenant raconte-moi. Et elle commence comme ça, miam, 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 vous savez, comme quand on mange, vous savez. Elle dit, maman, elle dit, oh oui, qu'est-il arrivé au bébé? Eh bien, dit-elle, maman, elle raconte à toute l'histoire. Elle dit, maman, va sortir tes plus beaux vêtements, et tu prépares ta valise, parce que tu vas aller prendre soin du bébé. Oh, quoi? Si vous le perdez, vous le retrouverez, n'est-ce pas juste? Si vous le gardez, vous le perdrez. Si vous le donnez, le perdez, vous le retrouverez. Est-ce juste? Et la petite Myriam finit de manger. Elle dit oui. Elle dit, tu vas aller au palais aujourd'hui. Et pas seulement cela, mais on va te donner $300 par semaine. Et le plus beau logement de tout le pays pour prendre soin de ton propre bébé. C'était bien la première fois dans l'histoire du monde qu'une maman était payée pour nourrir son propre bébé. Voyez comment Dieu agit. Alléluia. Elle nourrit son propre bébé et reçoit $300 par semaine pour cela. Et le meilleur logement du pays. Dieu fait vraiment des choses, n'est-ce pas? Est-ce que c'est payant de prier?
Amen.
Est-ce que c'est bon de prier?
Amen.
Elle prépare donc sa petite valise. Dépêchons-nous maintenant, nous allons terminer juste dans une minute. Ainsi nous, elle prépare sa valise, elle descend la rue aussi vite qu'elle peut. Et tout d'abord, elle arrive, et il y a un gros gardien qui tient là, avec une grande lance, et elle dit, « Qui va là ?» Elle dit, « Une fourche et une botte de foin. Passez !» Voyez comment Dieu fait les choses. Elle arrive devant l'autre garde, là il tire son épée, il dit, « Qui es-tu? Qui va là ?» Elle dit, « Une fourche et une botte de foin. » Il dit, « Passe !» Oh là là, voyez comment Dieu fait les choses. Elle va vers le palais, elle commence à monter, et alors il y a tous les grands gardes qui sortent, ils tirent tous leur épée, « Qui va là ?» Elle dit, « Une fourche et une botte de foin. » Entrez donc. La première chose qui arrive, c'est qu'un homme sort et dit, « Êtes-vous la petite dame que sa majesté attend ?» Oui. Il dit, « Faites-la entrer. » Elle fait donc entrer le bébé, ou plutôt elle fait entrer la mère, et la petite princesse sort et dit, « Sais-tu t'occuper d'un bébé ?» Elle dit, « Oui, votre majesté. » Elle dit, « Regarde ce bébé. N'est-ce pas qu'il est beau ?» Elle dit, « Oui, votre majesté, oui. » Elle dit, « Peux-tu savoir comment on nourrit un bébé ?»« Oui, votre majesté, certainement. » « Eh bien, dirent-ils, on te donnera un salaire de $300 par semaine. » Ah, Dieu n'était-il pas généreux? Et ils dirent, « Et tu auras les meilleures chambres dans le palais, et on te servira tes repas. Tu n'auras même pas à sortir pour préparer tes repas. » Ils dirent, « Maintenant, voici le bébé. Mais fais attention, ne le laisse pas tomber. » « Oh, ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas tomber. Ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai certainement pas tomber. » Mais tu dois prendre soin de lui de la meilleure manière. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Je prendrai soin de lui de la meilleure manière possible. Certainement, il était à elle, voyez-vous. Je lui donnerai les meilleurs soins. Tu vois, c'est un beau bébé. Très beau, dit-elle. Très bien. La porte se ferma sur Myriam, sur sa mère et sur le petit Moïse. Et quand la porte fut fermée, elle regarda tout autour d'elle. Elle dit, elle a pensé que tu étais son bébé, ha 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 ha, oh là là, elle le cajolait, qu'avait-elle fait? Elle, si elle l'avait gardé, qu'aurait-elle fait? Et parce qu'elle le rendit à celui qui lui avait donné, elle quoi? Elle le trouva, elle le garda, elle peut le garder. Maintenant, qu'arrive-t-il si nous perdons, si nous gardons notre âme, qu'arrive-t-il?
Nous la perdrons.
Et si nous la rendons à celui qui nous l'a donnée, qu'arrive-t-il?
Nous la garderons.
Nous la garderons, c'est vrai, n'est-ce pas? Combien d'entre vous voudraient monter jusqu'à l'autel et prier? Voudriez-vous le faire? Voudriez-vous que Jésus prenne soin de vous comme il le fit pour le petit bébé? Maintenant donc, que tous les petits enfants se réunissent autour de l'autel. Voulez-vous le faire? Venez tout de suite, agenouillez-vous autour de l'autel et prions tous. Tous les petits-enfants, maintenant, venez juste ici. Avez-vous aimé mon histoire à ce sujet?
Amen.
Avez-vous aimé cela? Très bien, maintenant. Vous venez autour de l'autel. Maintenant, venez. Maintenant, vous, les petits enfants, venez vous agenouiller juste autour de l'autel. Agenouillez-vous là, juste là, à l'autel, c'est ça. Vous, tous les petits qui, ceux qui sont là derrière, venez ici maintenant, nous allons prier. Venez, agenouillez-vous autour de l'autel, c'est bien. Maintenant, cela est bon. Cela est vraiment très bien, c'est bien. Et maintenant, les mères, vous voulez venir aussi, et les pères, vous agenouillez tous sur les bas-côtés. Et maintenant, vous les petits enfants, je vous demandais quelque chose ici. Regardez, croyez-vous que Jésus vous aime exactement comme il aimait Moïse? Croyez-vous que les anges veillent sur vous de la même manière maintenant? Dieu vous a donné une âme, n'est-ce pas? Maintenant, si vous gardez votre âme, que va-t-il lui arriver? Vous la perdrez. Mais si vous la rendez à Jésus ce matin, qu'allez-vous faire? Vous allez la garder, vous allez au ciel. Maintenant, vous voulez sauver votre âme, n'est-ce pas? Et vous voulez, en grandissant, devenir de vraies mères et de vraies âmes, n'est-ce pas? De vrais hommes, des prédicateurs, etc. Ne voulez-vous pas faire cela? Maintenant, si vous le faites, alors vous donnez votre âme à Jésus. C'est la manière de le faire. Vous dites, cher Seigneur Jésus, c'est tout ce que j'ai à te donner. C'est mon âme. Mais tu la gardes comme tu as gardé Moïse. Maintenant, si quelques-uns de vous, les adultes, voulaient venir et vous agenouiller, quelques-unes d'entre vous, les mères, peut-être désirent s'agenouiller ici ce matin, que Dieu vous bénisse si vous le faites. Si vous voulez venir et vous agenouiller juste là, c'est très bien. Voici une mère qui vient avec son petit garçon. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Un père? Papa? Un de vous? Si vous voulez être un homme de prière, comme l'était Amram, venez vous agenouiller aussi. Mère, si vous voulez être comme Jochebed, alors vous venez juste là et vous vous agenouillez aussi. Certainement, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Vous avez une âme aussi. Si vous la gardez, qu'arrivera-t-il? Vous la perdrez. Et si vous la rendez à celui qui vous l'a donnée, qu'arrivera-t-il? Vous la garderez, vous la sauverez pour la vie éternelle. C'est vrai. Maintenant, tous ensemble, tous ceux qui veulent. Maintenant, prions avec ces petits-enfants et avec tous maintenant.